La semaine dernière, c'est marrant, mais ça a commencé à coincer dès qu'on a parlé des béguines. Mais en fait, je suis pas sûr que ça a coincé parce qu'on a parlé des béguines. Je pense que ça a coincé parce qu'on a parlé de l'Inquisition. C'est plutôt ça qui fait que ça a coincé. Mais bon, voilà. Je vais pas trop revenir là-dessus parce que, en fait, j'ai été un peu trop ambitieux dans ce que je voulais faire. Et il y a quand même des choses importantes dont je voudrais parler ce soir, mais quand même. Deux petits points méthodologiques qui, pour moi, sont assez importants. Le premier point méthodologique, c'est que si je veux être jugé correctement le passé, faut avoir une énorme empathie pour ce passé. En fait, c'est exactement du même ordre que si je veux rencontrer une personne. Voyez? Parce que si je rencontre une personne en mettant d'emblée dans une catégorie en disant « c'est pas mon ami », j'ai aucune chance de la rencontrer, en fait. Eh ben, c'est pareil pour le passé. Ça, c'était le premier point méthodologique, mais qui est vraiment important. Parce qu'en fait, je remarque que vis-à-vis du passé, de manière générale, surtout que quand on n'est pas vraiment spécialiste, on utilise la vulgarisation et en fait, on procède uniquement par affinité avec des avis extrêmement tranchés, alors que les choses sont plus fines. Voilà, ça, c'est la première chose. Enfin, dans la première chose, avec en plus le fait que l'Église, c'est une institution. Mais une institution, ça n'existe que par les hommes qui la. Ouais, on voit quand je dis homme, je suis désolé, mais moi j'ai appris qu'en français, homme, ça voulait dire à la fois homme et femme. Hein, donc ça ne veut pas dire juste les hommes au sens masculin du terme, mais c'est à la fois les hommes et les femmes. Enfin, pour moi, c'est vraiment évident en fait, quand je le dis. Donc, j'espère que pour vous, ça l'est aussi, parce que sinon, on ne s'entendra pas. Mais c'est l'Église, c'est aussi donc les hommes qui l'habitent, qui la font vivre. Voilà. Donc, si je veux juger ce que fait l'Église, il faut que j'aie une profonde empathie pour les gens qui ont pris des décisions. Sinon, en fait, on ne s'en sortira pas. Ça, c'est le premier élément méthodologique. Le deuxième élément méthodologique, le premier est à la portée de tout le monde, hein, vraiment. Ça demande juste un effort d'écoute. Le deuxième, qui n'est pas à la portée de tout le monde, c'est que l'histoire, c'est une discipline. C'est une vraie discipline, comme la théologie, comme les mathématiques, comme la physique. Et être historien, ça ne s'improvise pas, en fait. Ça veut dire que pour acquérir la connaissance du passé, eh bien, ça demande en fait quelques techniques, quelques apprentissages et en plus une habitude. Là, c'est comme toutes les disciplines, mais je pense que toutes les disciplines scientifiques, c'est pareil. C'est-à-dire, plus je fais des études d'histoire, plus j'arrive à comprendre le passé. Sinon, on ne s'en sort pas trop. La question de l'historien n'étant jamais de se demander si c'était bien ou si c'était mal, mais de se demander comment est-ce qu'on en est arrivé là, ce qui est un petit peu différent en fait. Voilà. Dit de manière chrétienne, celui qui jugera l'histoire, c'est Dieu, c'est pas nous. Ben vraiment, c'est vraiment important ça en fait. Je répète, celui qui jugera l'histoire, c'est Dieu, c'est pas nous. Et je tire ça tout simplement de l'épître aux Colossiens, et qui est reprise dans Matthieu 25. Et qui commente un certain nombre de passages dans l'Ancien Testament. Mais voilà. Alors, fin de la leçon de morale. J'en viens maintenant à. Je voudrais faire quelques figures, mais en commençant, parce que je ne voudrais pas l'écarter, par Julienne de Norwich. Un cas qui n'est pas très, très bien connu en France, bien davantage en Angleterre, et qui est assez intéressant pour la contribution féminine à la vie de l'Église à la fin du XIVe et au début du XVe siècle. Là, moi, j'appellerais ça, si vous voulez, je mets ça normalement comme titre, une mystique et intellectuelle, les deux allant ensemble. Là, voilà. Alors, avant de présenter brièvement Julienne de Norwich, je voudrais simplement revenir sur deux éléments de contexte, parce que je ne suis pas sûr de les avoir développés jusqu'à présent. Deux éléments de contexte du XIVe siècle. Le premier élément, c'est la perturbation socio-économique. Je vous avais raconté normalement la semaine dernière que au XIIe, XIIIe siècle, on était dans une période de croissance, dans tous les sens du terme. Au XIVe siècle, c'est au contraire une période de crise, qui est d'abord la période de la crise démographique. La peste noire arrive de Turquie en 1346, se répand en Angleterre en 1348, et à partir de là, elle ne quitte plus l'Europe jusqu'en 1660. Voyez-nous, on croit qu'il y a une grosse épidémie de 1346 à 1349, mais après, il faut imaginer que tous les 10 ans, il y a une réédition d'une épidémie, et ce, jusque en France, c'est jusque dans les années 1660. C'est long, hein, quand même, comme période. Parce que qui dit épidémie de peste dit... Alors, on est très, 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 très loin des chiffres du Covid. C'est qui dit épidémie de peste dit le tiers d'un village qui meurt en 10 jours. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Hein. Le tiers d'un village qui meurt en 10 jours. Hein. Ce n'est pas de l'ordre de... Ce n'est pas 0,01% de la population.
Ouais.
Du coup, la... Du coup, on se retrouve avec cette fréquentation de la mort qui devient dramatique pour les populations, contrairement à ce qui se passait au XIIe siècle. Ça, c'est le premier élément. La crise démographique s'accompagne d'une crise économique et en même temps, parce que le XIIe siècle, c'est une période de réchauffement de la planète. Le XIVe siècle, c'est une période de glaciation. Du coup, ben, ça veut dire des mauvaises récoltes dans ce qu'est l'Europe. Ça entraîne des tensions sociales très fortes, notamment en Angleterre, un peu moins en Italie. Voilà. Donc ça, c'est la perturbation socio-économique, qui veut dire que du coup, le monde est un monde qui n'est pas très simple, alors que le monde médiéval classique, c'est un monde qui est bien organisé. Ben, là, ça marche plus. Deuxième perturbation de l'époque de Julien de Norwich, c'est la perturbation spirituelle et culturelle, alors, qui est difficile, mais alors qui vient d'une part, pour principalement de la crise de la hiérarchie romaine, appelez ça comme ça si vous voulez, à savoir que Rome étant dans des situations un peu compliquées, le pape a fini par fuir à Avignon. Il revient à Rome et à partir de là, je reviendrai ça avec Catherine de Sienne, vous vous retrouvez avec ce qu'on appelle le grand schisme d'Occident, 1378-1477. Alors, je vous avoue que moi, je n'ai jamais rien compris à cette histoire de grand schisme d'Occident. La seule chose que j'ai compris, c'est que c'était compliqué, mais c'est normal. Bon, disons que de manière simple, il y a deux papes en même temps, un à Rome, un autre à Avignon, et que l'Église hiérarchique est fortement discrédité. Fortement discrédité à un moment aussi où le clergé diocésain est peu apprécié. Enfin, c'est exactement comme aujourd'hui, en fait. Hein. L'Église hiérarchique est fortement discréditée. Le clergé diocésain est globalement peu apprécié, fait l'objet de critiques de tous les côtés, sur d'ailleurs des points assez semblables à ceux d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire qu'au XIVe siècle, il suffit de lire la littérature. Hein. Le clergé est accusé de ne pas être fidèle à ses promesses, il est accusé de ne pas savoir prêcher, il est accusé de vouloir du pouvoir. En fait, c'est exactement les mêmes choses qu'aujourd'hui, mais alors que c'était des critiques qui n'existaient pas au XIIe siècle et qui n'existeront plus au XVIIe siècle. Donc voilà, ça veut dire que la question se pose de comment ça se situe l'un par rapport à l'autre. Voilà. Moi, je vous dis ça assez franchement. Un jour, en discutant avec mon curé actuel, je lui disais, mais en fait, aujourd'hui, la période à laquelle l'Église ressemble le plus dans l'histoire de l'Église, c'est celle-là, celle de la fin du XIVe et du début du XVe siècle. Ce n'est pas très réjouissant pour l'avenir de l'Église, mais tant pis, c'est comme ça. En revanche, ça veut dire qu'on a besoin de mystiques, puisque c'est les mystiques qui ont sauvé l'Église. Alors, cette crise de la hiérarchie entraîne une forte contestation de l'institution ecclésiastique, en particulier en Angleterre. Vous savez, je n'ai jamais compris pourquoi on décrétait que la réforme avait commencé avec Luther. En réalité, la réforme, elle commence en Angleterre avec John Wycliffe, un siècle plus tôt. John Wycliffe vit de 1328 à 1384. C'est un théologien d'Oxford qui est très hostile aux vœux religieux, très hostile au sacrement de la confession et qui exige un retour à la simplicité de l'Évangile. Mais voyez, c'est des choses qu'on a déjà entendues hein, quand même. Hein. L'exigence du retour à la simplicité de l'Évangile, c'est l'histoire de Saint-François, c'est l'histoire de Sainte-Claire, c'est l'histoire des Béguines, mais c'est un contexte du coup qui est un peu général. Et c'est dans ce contexte que se développe la mystique féminine. Alors, ça c'est encore un point culturel important. Les femmes au XIVe siècle n'ont pas le droit d'enseigner. Eh bien, de quelle manière est-ce qu'elles enseignent? Par la mystique. Vous voyez? Moi, je trouve ça quand même assez intéressant que dans ce qu'on retient, 6 siècles plus tard, ce n'est pas du tout les docteurs en théologie des nouvelles universités, c'est Julien de Norwich, Sainte-Catherine de Sienne, Hildegard von Bingen, c'est-à-dire toutes ces femmes qui sont des mystiques et qui écrivent parce qu'elles sont mystiques. Mais c'est quand même intéressant, hein, parce que si on avait raisonné autrement, en disant c'est uniquement l'université qui doit avoir le pouvoir et on doit conquérir le pouvoir, je ne sais pas si on aurait encore parlé de ces femmes. C'est peut-être parfois une question qu'il faut se poser. Mais je suis assez frappé, voyez, de voir que dans cette histoire de l'Église, c'est souvent en dehors des lieux, disons, du pouvoir que les choses intéressantes se passent. C'est important quand même de le réaliser. Alors, ça passe par la mystique parce que l'intelligence, c'est quelque chose d'ordre mystique. Bon, moi, je pense que je le redirai en conclusion, mais ça fait 5 semaines que je ne fais que dire ça. Les femmes de l'Église sont des femmes qui prient. Mais je pourrais peut-être dire la même chose des hommes. Dans l'Église, il ne peut rien se passer d'intéressant si on ne prie pas. Et la prière, pour moi, ce n'est pas la prière d'intercession, c'est d'abord la prière de contemplation de Dieu. Si je ne contemple pas Dieu, il ne se passera rien d'intéressant dans l'Église. Mais ça vaut du coup pour chacun d'entre nous, bien évidemment. Voilà. Et ça, c'est la question pastorale, si vous voulez. Alors, la question de l'enseignement des femmes est une question qui se pose dans l'Église au XIIIe siècle. Bon, ça ne vous plaira pas. Je ne dis pas que je suis d'accord. Hein. Encore une fois, j'insiste sur cette empathie. Moi, je n'ai pas envie de dire mon avis sur la question. 190, théologien belge. À la Belgique, ça n'existe pas, hein, mais dire belge pour faciliter. Henri de Gand affirme que les femmes ont le droit d'enseigner, mais deux conditions. Une première condition, elles ne peuvent enseigner que ce qui relève de la grâce donnée par Dieu et de la charité. Donc elles ne peuvent pas enseigner la nature de Dieu, la nature de l'Église, les sacrements, ce genre de choses. Et deuxième condition, elles peuvent enseigner en privé, pas en public. Bon, ça, c'est l'avis d'un théologien, hein. C'est pas un avis autorisé, hein. C'est comme ça. La question, quand même, c'est que vous allez voir que Julien de Norwich, on va le lire là assez vite, c'est une femme qui arrête pas de dire, moi je suis pas en train d'enseigner. Ça, c'est sa manière de dire, me condamnez pas, je ne suis pas en train d'enseigner. Par contre, elle dit, moi je vais vous dire ce que Dieu m'a dit. J'enseigne ce qui relève de la grâce. Et je le fais de manière privée, c'est-à-dire je ne fais pas des grandes conférences publiques, mais je le fais en écrivant quelque chose. Alors, venons-en donc à Julien de Norwich. 1342, 1416. On ne sait pas grand-chose sur elle, en fait. Hein. Ça, c'est le problème. La seule certitude, c'est que cette femme est une recluse. Alors, une recluse, si vous l'écrire, bon, c'est pas trop difficile à écrire, c'est un état de vie à part entière. Alors, c'est pour les femmes, enfin, il y avait aussi des hommes qui étaient comme ça, mais c'est quand même plutôt les femmes. C'est pour les femmes qui n'ont pas du tout envie d'être moniales, enfin, qui n'ont pas du tout envie de vivre dans un couvent. Et du coup, elles veulent vivre une vie très austère, mais en étant seules. En vivant une forme d'enfermement qui les rapproche d'une forme de mort. Mais au XIVe siècle, ça a un énorme regain, cette affaire, mais c'est normal. Si vous avez des gens qui meurent comme des petits pains de votre côté, et que vous êtes chrétien, il n'y a qu'une seule chose à réfléchir, c'est le sens chrétien de la mort. Enfin voilà, bon, ça, je l'ai peut-être déjà dit, mais je vais radoter. C'est pour moi un des sujets de plus grande dépression de la crise du Covid. Que l'Église n'ait rien dit sur l'espérance chrétienne, alors qu'elle n'avait que ça à dire. C'est vraiment mon sujet de plus grande dépression. Si les gens meurent, je dois montrer ce que c'est que le sens chrétien de la mort. Alors, les recluses, elles le montrent. Ah oui, pardon. Bon, mais c'est Julienne de Norwich. C'est comme c'est Julienne comme la Julienne. Et Norwich, elle est sur le plan, hein, la ville en Angleterre. Je parle pas, enfin, je sais pas prononcer l'anglais. Moi, l'anglais, c'est une langue qu'on lit, c'est pas une langue qu'on prononce. Donc, je sais pas comment on prononce le nom de cette ville. Mais là, voilà. Alors, notre amie Julienne de Norwich, du coup, décide de s'enfermer pour manifester qu'elle meurt. Mais la mort, c'est pas la fin de tout. La mort, c'est le passage vers la vie. Donc, les recluses, elles manifestent qu'elles meurent pour montrer ce qu'est la vie après la mort. Voilà. Alors, du coup, qu'est-ce que font les recluses de leur journée? Bah, trois choses. Parce que vous allez voir, c'est pas un état, c'est pas des ermites, en fait. Elles font trois choses. Première chose, elles prient et elles lisent. Et elles lisent, comme notre Julienne de Cornillon de la semaine dernière. Deuxième chose qu'elles font, quelques travaux manuels, parce qu'il faut quand même survivre. Bon, elles ne mangent pas beaucoup, hein, parce que ces saintes femmes, ça ne mange que de l'herbe. Donc ça, et c'est pour ça qu'elles vivent vieilles, en plus. Du coup, c'est bien. Troisième chose qu'elles font, comment est-ce qu'elles vivent de la charité? Eh bien, elles ont une importante activité de l'écoute d'autrui. Elles ont une importante activité de l'écoute d'autrui. Si vous avez lu ce petit livre idiot qui s'appelle « Monsieur le curé fait sa crise », quand il devient reclus, c'est exactement ce qu'il fait, en fait. Et il retrouve sa vocation sacerdotale de cette manière-là. Alors, comment est-ce qu'on va juger de cet état de vie? Pour une femme, ça peut être un lieu de très grande liberté. Bah, je ne sais pas si vous réalisez. Hors du monde masculin. Hors du monde féminin. Je me permets de dire ça. Je ne suis pas sûr que les couvents féminins, ça soit toujours des lieux très joyeux ou très glorieux. Je ne parle pas pour Sœur Philomène, j'en sais rien comment c'est chez elle. Mais parfois, c'est compliqué. Alors, pour ces femmes-là, c'est extrêmement libre, en fait. On est seul, on fait ce qu'on veut, et il n'y a personne pour vous contrôler. Et en plus, il y a une vie spirituelle forte. Et comme elles ont une vie spirituelle forte, elles jouissent d'une forte reconnaissance sociale. Alors, notre Julienne, elle, c'est une femme cultivée qui connaît bien la Bible. Faites attention que la Bible est bien connue au Moyen-Âge. Elles vivent, oui, mais je l'ai dit, elles font des petits travaux manuels, elles fabriquent des corbeilles, des tissus, enfin, elles font de petits travaux, il y a des gens qui viennent leur acheter leurs travaux de couture, hein, c'est pas, et puis, comme elles ont une bonne notoriété, les gens leur apportent des petits cadeaux. Donc, en fait, et puis elles vivent de peu. Enfin, c'est pas le devin d'Astérix, quoi, c'est plus, c'est vécu dans la vérité. Alors, c'est une femme cultivée qui connaît bien la Bible. Et en plus, la ville de Norwich, c'est une ville intellectuelle. Vous savez, à Norwich, au XIVe siècle, il y a des bénédictins, il y a des dominicains, il y a des franciscains, il y a des carmes. C'est une ville où tous les grands maîtres spirituels du Moyen-Âge sont connus. Alors, moi, les grands maîtres du spirituel du Moyen-Âge, attention, hein, c'est Hildegard von Bingen, que les tenants de l'écologie chrétienne feraient bien de lire, hein, parce qu'en fait, c'est une femme absolument étonnante. Hein. C'est maître Eckhart, c'est Jean Toller. Vous voyez, c'est ces gens-là qui sont lus. Alors, cette laïque a des visions. Voilà la question. Et alors, du coup, elle commence à mettre ses visions par écrit. Alors, je vous ai mis les extraits. C'est ce qu'on appelle le livre des révélations. Alors, vision. Je vais le. Alors, je saute le paragraphe 3. Je passe au paragraphe 6 directement. Donc, qu'est-ce qu'elle raconte ? Je reçus cette vision dans mon entendement. Traduction, c'est pas une extase. C'est quelque chose. C'est quelque chose qui est en même temps réfléchi. Voyez. Alors, bon, moi, je suis pas un spécialiste de théologie mystique. Là, mais ça fait partie des critères pour juger des visions, cette affaire, hein. De savoir est-ce que c'est une extase, est-ce que c'est juste quelqu'un qui a pris quelques substances illicites, est-ce que c'est quelqu'un, parce que aussi autre critère, est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas assez mangé, parce que si j'ai pas assez mangé, j'ai vite rapidement des hallucinations, est-ce que voilà, si, peut-être que c'est pas comme ça, peu importe. Leçon donnée aux âmes pour qu'elles s'attachent avec sagesse à la bonté de Dieu. Alors voilà une première phrase importante. La vision que Julienne de Norwich a reçue est une leçon donnée aux âmes pour qu'elles s'attachent avec sagesse à la bonté de Dieu. Vous voyez, c'est pas elle me le met par écrit parce qu'elle dit ça peut être utile à d'autres. C'est exactement ce que fait Sainte Thérèse d'Avila, hein, quand elle commence une autobiographie en disant ce que j'ai traversé, ça peut être utile à d'autres. Et moi, je maintiens que l'autobiographie de Sainte Thérèse d'Avila, c'est utile à tout le monde. Et pas juste au carmélite. Alors, elle continue comme cela et elle dit après, au même moment, notre façon de prier me revint à l'esprit. Alors, elle articule du coup sa vision avec un commentaire sur sa manière de prier. Je me rappelais comment, par reconnaissance d'amour, nous recourons à de multiples intermédiaires. Je perçus alors en vérité que Dieu est plus glorifié et satisfait quand nous le prions, confiants en sa bonté, quand par grâce nous nous attachons à lui dans l'intelligence de la vérité et la fermeté de la foi, qu'il ne l'est quand nous recourons à tous les médiateurs auxquels notre cœur peut songer. Recourir à des médiateurs, c'est faire trop peu. Ce n'est pas rendre pleinement gloire à Dieu, tout est inclus en sa bonté, rien n'y fait défaut. Alors, qu'est-ce qu'elle veut dire? Elle veut dire que deux choses. La première, par inconnaissance d'amour. C'est-à-dire, la vie de prière de ses contemporains est obnubilée par la peur de l'enfer ou par même pas la haine du péché, en fait. C'est parce qu'en fait, on peut avoir peur de l'enfer sans haïr le péché. Alors que du coup, elle dit, bah, du coup, à cause de cette peur de l'enfer, on va recourir à de multiples intermédiaires. Ce qu'elle vit, c'est des choses très concrètes. Hein. C'est les pratiques du jeûne, c'est les pratiques de pèlerinage, c'est les aumônes, enfin, toutes les choses qui font partie de, enfin, du cortège de dévotion catholique. Et j'ai rien contre. Mais voyez comment elle dit. Elle dit pas que c'est mauvais. Elle dit que ce n'est pas suffisant. C'est important, ça, les mots. Hein. Elle ne dit pas que c'est mauvais, elle dit que ce n'est pas suffisant. Sainte-Thérèse d'Avila dit exactement la même chose, en fait, hein, dans le livre de sa vie, disant un jour, il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est quoi? C'est regarder en face la bonté de Dieu. Voilà l'apport théologique de Julian de Norwich. Ce que les docteurs en théologie du XIIIe siècle ne disent pas, ou qu'ils disent de manière abstraite, ou qu'ils ne disent pas assez. Vous voyez, Julien de Norwich, c'est celle qui affirme très clairement que Dieu est bon et que ça vaut le coup, du coup, de se mettre au service de ce Dieu-là. En revanche, de la part de Julien de Norwich, mais ça, je crois que c'est objectivement catholique, regarder la bonté de Dieu ne veut pas dire abandonner toute idée du péché. Parce que plus je suis conscient de la bonté de Dieu, plus je déteste le péché. Enfin, celui qui s'accommode de son péché, c'est celui qui n'a pas encore pris conscience de la bonté de Dieu. Ça, c'est la base de toute vie mystique. Mais du coup, elle le fait comme ça. Alors du coup, ça, c'est ce qu'elle dit. Ce qui m'intéresserait davantage, c'est comment elle justifie son écrit. Et du coup, c'est le chapitre 9. « Je ne suis pas bonne du fait de cette vision. Ne me glorifiez pas. » Ne me glorifiez pas. Je ne suis pas bonne du fait de cette vision, mais seulement si j'en aime Dieu, d'autant mieux. Si vous aimez Dieu davantage, vous en tirerez aussi grand profit que moi. Et alors, c'est très important la suite. Je parle ainsi, non pour les sages, parce que ça, ils le savent bien. Bah oui. Mais pour vous qui êtes simples, mais pour vous, il y a une question qui m'est posée en demandant si c'est médiateur comme intermédiaire. Oui, médiateur comme intermédiaire, tout à fait. Pour vous, j'ai perdu ma phrase là, du coup. Pour vous qui êtes simple, afin que vous soyez à l'aise et dans la consolation. Vous voyez, c'est pas, c'est de dire, ne vous laissez pas avoir par une espèce de comptabilité de la dévotion. Mais visez plus haut. En vérité, je n'ai pas vu que Dieu m'aime mieux que la moindre des âmes en état de grâce. Donc, Norwich n'a pas de péché d'orgueil. Et elle continue. J'en suis sûr, une foule de gens n'a jamais eu ni révélation ni vision, hormis l'enseignement courant de la Sainte Église, et ils aiment Dieu mieux que moi. Ça veut dire que Norwich est une femme qui dit, moi je ne suis une femme simple et je prétends pas faire mieux que tout le monde. Par contre, j'ai reçu quelque chose et ça me paraît utile à savoir. Et elle continue en disant, mais Dieu interdit que vous disiez ou que vous considériez que j'enseigne. Alors vous voyez, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je viens de Norwich, c'est l'idée, oh là là, je ne suis pas en train d'enseigner. Oh, bon, C'est un peu foire de café quand même, hein, parce que si j'écris un livre et que je diffuse, moi j'appelle ça de l'enseignement. Mais elle a dit non, je n'ai jamais eu l'intention d'enseigner, parce que je suis une femme illettrée, c'est pas vrai. Elle sait lire Hildegard von Bingen, elle sait lire la Bible. Je suis une femme faible et frêle. Ça, c'est, je rentre dans le topos ou dans le lieu commun de la femme qui ne sait pas faire. Mais vous savez, dans la Bible, c'est pareil. Hein. Notre amie Esther ne dit pas autre chose. Et pourtant, grâce à Dieu, elle fait autre chose. Mais elle continue en disant, « Ce que je dis, je le sais bien, parce que je le reçois de la révélation de celui qui est le souverain maître. Donc, je ne suis pas en train d'enseigner, mais comme ce que j'ai reçu, je l'ai reçu directement de Dieu, c'est extrêmement important que je le dise. Et la charité me presse de vous le dire, car je voudrais que Dieu fût connu. Sauf ce qu'elle vise d'abord, c'est que Dieu soit aimé. Pas autre chose. Aimé semblable dans le Christ aidé. Alors vous voyez que parfois, on ne sait pas pourquoi, on a une idée très égoïste de la réclusion, où on se dit que la recluse, c'est la femme qui veut vivre sa vie spirituelle dans son coin. Mais je crois que c'est parce que notre époque contemporaine est spirituellement très individualiste. Très individualiste. Enfin, moi, je me désole, enfin, vraiment, de ne jamais entendre quelqu'un me dire « Je suis désolé parce qu'il y a trop peu de gens qui trouvent que Dieu les aime. » Vous voyez, c'est quelque chose que je n'entends jamais, en fait, de la part d'un chrétien. Ça veut dire qu'on est complètement individualiste. On se contente de dire Dieu m'aime et ça me va très bien. Et tant pis si les autres n'en ont pas conscience. Alors que Julien Norwich, c'est pas ça. La charité me presse de vous le dire. Saint Paul, je voudrais que Dieu fût connu autant que je voudrais l'être moi-même pour avoir plus grande haine du péché et plus grand amour de Dieu. Saint Augustin, ça. Parce que suis-je femme, dois-je croire que je n'ai pas à vous parler de la bonté de Dieu ? Ah, voyez comment elle ose dire les choses de manière assez fine. J'ai vu en même temps qu'il veut qu'elle soit connue. Donc, ce qu'elle dit, Julien de Norwich, c'est arrêtez de regarder mon état de vie. Arrêtez de regarder si je suis dans cette catégorie ou dans cette catégorie, mais écoutez plutôt le fond de ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire parce que le fait que la bonté de Dieu veuille être connue, ça, c'est le truc important. Le reste, de savoir qui le dit, ça n'a aucune importance. C'est assez libérant, hein. Bon. Du coup, ça, c'est typiquement des formes de pique contre les habitudes ou la domination universitaire de la ville de Norwich. Et pourtant, Julien de Norwich, c'est une femme d'Église. En tout, je crois ce que la Sainte Église prêche et enseigne. Donc, profession de foi. Mais ce n'est pas pour se protéger. Vous voyez, ce n'est pas parce qu'elle a peur de fournir un grand bûcher. C'est plutôt de dire... Je ne suis pas seul, en fait. Vous voyez, c'est plutôt une question spirituelle. La foi ecclésiale, telle que je l'avais comprise jusqu'alors, et dont j'espère observer pleinement les us et coutumes, était constamment présente à mon regard. La foi chrétienne était constamment présente à mon regard. Et je ne voulais et je n'entendais accepter rien qui lui fût contraire. Et du coup, elle dit... Recevoir la bonté de Dieu et la montrer au monde, c'est pas contraire à la foi et à l'enseignement de l'Église. Enfin, j'ai envie de dire, heureusement en fait, hein, parce que sinon, ça serait quand même assez inquiétant. Ce que Julien de Norwich exprime un peu entre les lignes, c'est une certaine tension entre les révélations reçues et l'enseignement de l'Église. Il est évident pour Julien de Norwich qu'une révélation authentique ne peut pas aller contre l'enseignement de l'Église. Ça, c'est quelque chose qui est assez constant quand même dans la vie mystique. Mais elle préfère préciser que, du coup, l'enseignement de l'Église lui a fourni la clé d'interprétation. Donc, recevoir la bonté de Dieu, c'est pas un truc, elle dit, j'ai pas découvert un truc nouveau. J'ai pas découvert un truc qui n'était pas enseigné. Mais par contre, j'ai voulu le dire dans ces mots-là parce que on n'a pas assez conscience de ces mots-là. C'est quelque chose un peu, lorsque le pape a lancé le jubilé pour la miséricorde, c'est un peu quelque chose qu'il voulait dire, voyez. Bon, c'est une pique, hein. Le prenez pas très au sérieux mes piques, hein. Mes digressions, elles sont pas très importantes, mais ça, parfois ça fait réfléchir. Si je prends la miséricorde de manière aussi jusqu'au-boutiste que le demande le Saint-Père, eh bien, il faut que je réfléchisse un jour à la miséricorde dont doivent bénéficier les criminels. Sinon, je ne rentre pas dans le mouvement total. C'est quelque chose comme ça que demande Julien de Norwich, en disant, ben voilà, moi je vais jusqu'au bout de la bonté de Dieu parce qu'on n'en a pas assez conscience. Et ça lui permet du coup de ne pas être dans un face-à-face avec l'Église. Vous voyez, il ne dit pas, l'Église a dit ceci et elle a tort, et moi je vais vous dire ce qui est vrai. Mais elle dit, dans l'Église j'ai reçu ça, mais avec Dieu j'ai compris ça, et aujourd'hui pour mon époque, ça me paraît important que ce que j'ai compris, les autres aussi le comprennent. Vous voyez la démarche ? Sainte Thérèse d'Avila, un siècle et demi plus tard, deux siècles plus tard, fait pareil. Hein. C'est vraiment pareil. Mais je crois que ça, c'est le bon mouvement, en fait, qui est de la mystique intellectuelle, qui est en même temps une femme d'Église, et vous voyez, qui prend quand même toute sa place, au sens où elle ne se pose pas trop la question du pouvoir, même si elle assure un petit peu ses arrières. Voilà un peu ce que je voulais vous dire rapidement sur Julien de Norwich, mais qui est un jalon important dans cette question de la femme mystique et intellectuelle. Ça va à peu près avec elle ?
Oui, je voulais juste te demander là, la clé d'interprétation, donc elle dit c'est l'enseignement de l'Église qui lui permet d'interpréter ses visions, en tout cas ce qu'elle dit, c'est une façon de discerner quelque part. Est-ce que ça peut être pris comme du discernement ou c'est...
Ah oui, mais c'est précisément...
C'est ça.
Oui, bah, en fait, j'ai sauté des passages de sa vie où elle explique très bien que quand elle a eu une vision, la première chose qu'elle a faite, c'est de faire venir des gens pour leur raconter.
Voilà, ce que je voulais que tu dises, voilà, c'est ça.
La fatigue, autrement, ça arrive parfois... Alors, moi, je remarque que c'est quand même plutôt les femmes, ça n'est jamais arrivé de la part d'hommes. Ça arrive parfois que des femmes viennent vous trouver en vous disant « Oh là là, j'ai eu une vision !» Bon, moi, je suis un peu les pieds sur terre, donc je suis assez, en général, un peu sceptique, et pourtant... Je suis un homme de foi. Ça veut dire que je récuse pas par avance la vision. Mais Julien de Norwich, elle dit, je peux pas être la seule juge de l'affaire.
Oui.
Et après, quand je dis, oui, alors quand tu dis discernement, ça veut dire aussi d'aider à comprendre les choses. C'est-à-dire, je comprends la bonté de Dieu, mais je la comprends aussi à la lumière de ce que je récite. Par exemple, si je récite le credo. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Ok, ça peut être une formule abstraite, métaphysique, ontologique. Mais je peux aussi réaliser que la bonté de Dieu, c'est la création. Et je peux du coup interpréter les choses comme ça. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà.
Okay,
mais
d'accord.
Après, ça n'est pas, attention, ça n'est pas un recours à l'autorité de l'Église au sens où elle n'a pas convoqué les universitaires de Norwich pour leur dire oui. Est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort.
C'est, oui, on est bien d'accord. Oui.
L'expérience spirituelle pour elle est première. Et je pense que quand même ça, c'est une voie importante. Voilà. Mais il y a un point commun vraiment avec Thérèse d'Avila, hein, parce que Thérèse d'Avila dit la même chose.
Hein. Oui, oui, j'ai lu aussi Thérèse d'Avila, oui. J'avais lu ça aussi, d'accord. Ok, merci à toi.
Voilà. Alors, on va continuer. J'espère que c'est pas que vos écrans ne font pas comme moi, parce que moi, ça, on est un peu comme dans la Castafiore à Moulinsart. Ce n'est pas très agréable, mais...
Ben moi, ça saute tout le temps, le mien saute tout le temps. Donc, ça doit être Clamart.
Ça bon. Doit être, oui, parce que c'est il y a que celui de Florine qui bouge.
Non, le mien aussi. Moi, ça bouge aussi.
Oui, bon. Oui, mais ça bouge, mais c'est celui de...
C'est le mien qui bouge beaucoup.
Voilà. Bon, bah, c'est pas grave. Je vais du coup continuer avec Sainte Catherine de Sienne, qui est dans le même genre, en fait. Mystique, intellectuelle. Sauf qu'elle, elle a une troisième catégorie, c'est qu'elle est diplomate. Alors, Catherine de Sienne, je vais, bon, sans courir, quand même dire deux, trois choses. Je vous ai mis des extraits assez larges de sa vie qui est écrite par Raymond de Capoue, qui était quand même quelqu'un qui l'a très bien connue. Hein. Donc, c'est une source assez authentique, même si elle a servi à sa canonisation. Alors, je reprends encore une fois mon problème de contexte. Je vous ai déjà décrit le contexte démographique. Je vais continuer avec mon contexte. C'est mon contexte politique. Au XIVe siècle, À la, c'est là, en fait, dans l'ensemble de l'Europe, ce qui marque le XIVe siècle, c'est le retour de la guerre. Alors, attention, il faut la voir de manière large. Donc, je vous donne les trois guerres qu'il y a au XIVe siècle dans toute l'Europe. Première guerre, la guerre de Cent Ans, qui, comme son nom l'indique, n'a pas duré 100 ans. Mais qui, voyez, commence en gros vers 1310 et qui se termine en gros vers 1460. Ça, c'est ce que vous avez dans la France actuelle. En Italie, vous avez les guerres entre toutes les cités italiennes. Vous savez, l'Italie, c'est le monde des cités. Donc, c'est la guerre entre Sienne et Florence, entre Pise et Sienne, entre Pise et Florence, entre Venise et Vérone, entre Milan et ses voisines, etc., etc. Du coup, c'est une guerre où il y a de, c'est une période où il y a de multiples guerres. Et qui dit guerre, qui dit appauvrissement, dit en même temps brigandage. C'est la raison pour laquelle je pense vraiment que si notre période ressemble à la fin du XIVe siècle, on se prépare à des moments difficiles. Mais on a tous les signaux, hein, rassurez-vous, puisque l'État n'est plus capable de tenir le territoire en France, ça veut donc dire que dans pas très longtemps, on va avoir quelques petites zones de brigandage un peu partout. C'est exactement ce qui va se passer en Italie et en France au XIVe et au XVe siècle. Troisième guerre, parce que on s'y trompe parfois parce qu'on ne la situe pas au bon endroit, c'est l'invasion turque. Parce que les Turcs, en 1389, sont à Sarajevo, c'est-à-dire en Yougoslavie. Vous voyez, c'est pas, ils ne sont pas en Turquie, ils sont arrivés beaucoup plus loin, beaucoup plus près de chez nous, en fait. Donc, du coup, le XIVe siècle, c'est vraiment le retour de la guerre dans la totalité de l'Europe. Alors que le XIIe siècle était un siècle de paix, en fait, plutôt, où la guerre, elle était à l'extérieur, un peu en Espagne, un peu en Terre Sainte, mais pas vraiment dans le centre. Deuxième élément du contexte que je voudrais rajouter, c'est un effondrement ecclésiastique. Alors, j'ai déjà décrit le problème de la crise de la hiérarchie, mais cette crise de la hiérarchie est en fait une crise de rapport entre le pouvoir politique et la hiérarchie ecclésiastique. Moi, je maintiens qu'un jour, il faudra faire un développement sur la question du rapport de l'Église et de l'État, en fait, hein, parce que c'est une des clés de compréhension du christianisme. À savoir que je vous ai déjà décrit un peu comment, au XIIe siècle, on avait eu ce conflit-là entre l'empereur et la papauté. Voilà. Alors, comment ce conflit se résout-il? Eh bien, c'est simple. Il se résout en 1308 avec Boniface VIII dans une bulle adoré par certains, détesté par d'autres, je m'en fiche, il s'appelle Unam Sanctam. Qu'est-ce que dit Boniface VIII, la bulle Unam Sanctam? Il proclame la suprématie du pape sur tous les princes temporels. Et cette suprématie du pape est contestée notamment par le roi de France, qui ne supporte pas qu'il y ait quelqu'un qui se dise plus fort que lui. L'opposition à la papauté, qui prétend être plus forte que les autres, est telle que le pape quitte Rome en 1309. Et il s'enfuit en Avignon, c'est-à-dire sur ses territoires. Donc le pape n'est plus à Rome, il est à Avignon, et lorsqu'il est à Avignon, il devient, alors c'est quand même assez drôle, parce qu'un an avant, il a proclamé la suprématie du pape, et un an après, qu'est-ce qui se passe? Il devient le jouet des princes rivaux. Entre les cardinaux qui sont favorables à tel souverain, les cardinaux qui sont favorables à tel autre souverain, etc. Enfin, le XIVe siècle, c'est l'époque où ce sont les rois qui font le pape. C'est la raison pour laquelle on a inventé au XVe siècle le secret absolu des conclaves. Hein. C'est pour protéger la liberté de l'Église. Hein. Parce que sinon, c'était le principe des cadeaux donnés par les princes pour faire élire tel candidat. Ce genre de choses. Voilà. Donc ça, c'est ça l'Église hiérarchique du XIVe siècle. Hein. Évidemment, on a un peu de mal à avoir une mystique du siège de Pierre quand on dit ça, puisqu'on est en plein dans la politique. J'en viens à Catherine de Sienne. Alors, Catherine de Sienne, Je vais commencer par son statut religieux, parce que ça, c'est important. Je saute le paragraphe 1 du premier livre de sa vie, parce que bon, ça, c'est juste son enfance, et j'en viens à paragraphe 3. Catherine a pris du Seigneur, par révélation, elle aussi, elle a des visions, que le bienheureux patriarche Dominique, le fameux Saint Dominique, avait institué l'ordre des frères prêcheurs pour la défense jalouse de la foi et le salut des âmes. Donc, on est au XIVe siècle, elle apprend l'existence du Dominicain, on va dire ça comme ça. De là, dans son âme, le désir toujours croissant d'entrer dans cet ordre afin qu'elle pût, avec les autres frères, être utile aux âmes. Donc, l'âme spirituelle de Sainte Catherine de Sienne, c'est une âme d'évangélisatrice. Alors, voyez, là, c'est vrai qu'on a le droit de dire, quand même, c'est dommage, parce que du coup, on a peut-être raté quelque chose au sens où l'Église ne permettait pas à une femme d'être une missionnaire à l'époque. Du coup, on rate quelque chose. Mais vous allez voir que le Saint-Esprit est assez bon pour utiliser des voies détournées, ou faire les choses autrement. Donc, elle veut devenir dominicaine, mais pas des dominicaines de prouille enfermées, cloîtrées. Elle veut être une dominicaine qui va avec les dominicains pour vivre dans la pauvreté et pour annoncer l'Évangile. Ça, c'est son rêve d'enfant. Bon, entre parenthèses, c'est ce que disait Sainte Thérèse dans l'Enfant Jésus de la Sainte Face. Hein. Sainte Thérèse de Lisieux ne disait pas autre chose, hein, de son désir missionnaire. Alors, le plus drôle est à venir. Comme son sexe s'y opposait, elle pensa très souvent, ainsi qu'elle me l'a confessé, à imiter Sainte Euphrosyne. Je ne connaissais pas l'existence de Sainte Euphrosyne avant de lire Raymond de Capoue. Dont, pendant son enfance, elle avait reçu par hasard le nom. C'est-à-dire que Catherine s'appelle Catherine Euphrosyne. Sainte Euphrosyne, en effet, ayant dissimulé son sexe, était entrée dans un monastère de moines. Et du coup, Catherine voulait de même s'en aller dans un pays lointain où elle fut inconnue, s'y faire passer pour un homme et entrer dans l'ordre des prêcheurs afin de venir au secours des âmes qui périssent. Donc, autrement dit, elle imagine de se travestir en homme pour pouvoir devenir, je ne sais pas s'il faut dire un ou une dominicain ou dominicaine, et disons, un prêcheur. Vous voyez, c'est assez extraordinaire, hein, quand même. Ça, c'est le projet de Catherine, quand elle est petite fille. Parce que c'est comme ça qu'elle se projette, et parce que c'est ce qu'il y a dans son cœur. Bon. Entre parenthèses, il y a un peu plus tard en France, une autre femme qui fait quelque chose d'équivalent. Elle s'appelle Jeanne d'Arc, qui revêt des habits d'homme pour monter sur un cheval et être habillée en chevalier. Ça, alors qu'une femme, normalement, ça ne fait pas la guerre. Vous voyez, il y a quelque chose d'équivalent, mais je ne sais pas. Moi, je veux être prudent en la matière. Je ne sais pas s'il faut y voir aussi une forme de protestation contre des rôles très séparés dévolus aux uns et aux autres. Peut-être, peut-être. La question, en tout cas, des femmes déguisées en hommes, ça existe tout au long de l'Église. Comme ça. Alors, toutefois, elle renonce à son projet de se déguiser en homme. Peut-être qu'elle a pensé que ce n'était pas vraiment réalisable ou que ce n'était peut-être pas la voie du Seigneur. Parce que vous voyez, c'est aussi ça la question. Si je suis une personne de prière, il y a un moment, quand même, la seule question que je dois me poser, c'est est-ce que Dieu veut que j'aille dans ce sens-là ou pas? Sinon, ça veut dire que je n'ai pas encore donné ma vie à Dieu. Catherine, que fait-elle? Eh bien, ses parents, ils avaient décidé pour elle. Ben, c'est normal. C'est le paragraphe 4. Elle avait atteint l'âge nubile, c'est-à-dire qu'elle avait l'âge de 12 ans. Donc, à 12 ans, elle est prête à être mariée. Et du coup, ses parents décident de la marier. Et Raymond de Capoue dit assez bien, elle ne sortait plus de la maison paternelle selon la coutume du pays, qui ne permet plus de sortir à des jeunes filles de cet âge avant qu'elles ne soient mariées. Et donc du coup, on commence à penser à elle en se disant, bah, tiens, comment est-ce qu'on va faire pour la marier? Alors, j'ai supprimé quelques paragraphes, parce que sinon ça serait trop long, mais je vous les résume, parce que c'est très révélateur de la manière dont on vit en Italie. Si vous connaissez Roméo et Juliette, c'est exactement ça en fait. Hein. C'est que OK, la jeune fille de 12 ans ne sort plus. Mais par contre, elle doit quand même de temps en temps se montrer un peu à la fenêtre. Parce que si on ne la voit jamais, ça ne va pas non plus, puisque aucun garçon ne voudra jamais la désirer. Vous voyez, et là, vous avez toute l'histoire italienne, celle de Roméo et Juliette, celle des chants de Pétrarque, etc. Qui est de dire, la fille ne sort pas, mais elle se montre d'une espèce de jeu de cache et de dévoilement. Catherine de Sienne, comme elle n'a pas du tout envie de se marier, elle fait mieux, elle ne se montre pas. Et du coup, ses parents leur lui font reproche. Alors, qu'est-ce qu'elle veut faire ? Eh bien, comme elle est passionnée par Dominique, elle dit, puisque je ne peux pas devenir une femme prêcheur, je pourrais au moins rejoindre un ordre, quelque chose qui s'appelle les Sœurs de la pénitence du bienheureux Dominique. Alors, évidemment, dit comme ça, ça ne fait pas rêver. Mais, allez voir de quoi il s'agit. Parce que ça, c'est un truc bizarre, inattendu. Je suis quand même assez frappé de l'inventivité en matière des états de vie. On invente des trucs, vous voyez, le droit canon, ce n'est pas un truc figé, ça s'invente. Mais par contre, ça s'est fait avec Dieu. Donc, elle a envie de rejoindre ses sœurs de la pénitence du bienheureux Dominique, c'est le paragraphe 7. Et alors, Lapa, c'est le nom de la maman, hein, moi j'y peux rien, c'est comme ça. Vaincue par tant d'instances, fit cette démarche. Et les sœurs lui répondent, c'est quand même pas leur coutume de donner l'habit à des vierges en pleine jeunesse. Bon, c'est-à-dire que Catherine, à l'époque, elle a 13 ou 14 ans, hein, donc ça fait quand même un peu jeune. Parce qu'elle ne l'accorde qu'aux veuves d'âge avancé, bien connues pour leur vertu. Car les sœurs qui n'ont point de clôture et qui vivent chacune dans leur maison devaient absolument être en âge de se gouverner elles-mêmes. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Des sœurs qui n'ont point de clôture et qui vivent chacune dans leur maison. C'est la version italienne des Béguines. Alors, dans sa vie de Sainte Catherine, Raymond de Capoue fait ensuite un flashback. C'est le paragraphe 8 qui est un peu long, mais qui, je vais lire en partie parce qu'il est important, qui raconte l'invention de ce que aujourd'hui nous connaissons sous le nom tertiaire dominicaine. Des tiers ordres mendiants, c'est-à-dire l'invention d'un lieu de gens qui sont des laïcs consacrés, qui ne sont pas des moniales, qui donc ont une certaine liberté de mouvement et qui pour autant vivent cette consécration à Dieu. Ça, ça fait partie de l'inventivité. Mais voyez, les tâtonnements, parce que ce n'est pas prévu par le droit cette affaire. Hein. C'est comme les béguines, ce n'est pas prévu par le droit. Mais on... Dans l'interdiction des béguinages, il n'y avait pas tellement l'idée que ce n'était pas prévu par le droit. C'est plutôt, le droit accepte en fait ce genre d'innovation à condition qu'on puisse vérifier que ça ne parte pas complètement dans le décor. C'est un peu comme quand un certain nombre de communautés nouvelles dans les années 60 ont tenté des communautés mixtes. Ce n'est absolument pas prévu par le droit. Rome y a mis un peu le holà parce qu'il y a eu pas mal de dérives, mais... c'est quelque chose de cet ordre-là. Alors, comment est-ce que Raymond de Capoue nous raconte cette histoire ? Dominique réunit, c'est le paragraphe 8, quelques laïcs qu'il savait remplis de la crainte de Dieu et commença de s'entendre avec eux pour l'organisation d'une sainte milice qui aurait pour but de recouvrer et de défendre les droits des églises et aussi de résister à la malice de l'hérésie. Donc, le but, c'est de dire, nous, dominicains, nous ne pouvons rien faire tout seuls, on a besoin d'un groupe de laïcs pour nous aider. En gros, c'est ça l'idée. Et nous aider sur le terrain. Et du coup, ça fonctionne. Ce sont des hommes, au sens masculin du terme. Je saute une phrase. Pour que leurs épouses ne missent pas obstacle à cette œuvre sainte. Ah, c'est intéressant. C'est-à-dire, on recrute des hommes pour être au service des dominicains dans les régions qui ont été conquises à l'hérésie cathare, et on a un peu peur que les femmes soient un peu rétives à des hommes qui seraient un peu trop actifs. Il faisait aussi jurer à ces femmes de ne point gêner leur mari, mais de les aider à leur façon de tout leur pouvoir. Alors, les hommes deviennent les frères de la milice de Jésus-Christ, ok. Bon, après, je passe sur la question de ces hommes, et ensuite, on en vient aux femmes. Je vais à peu près au milieu du paragraphe. À la mort des hommes qui en faisaient partie, cette fameuse milice, Les femmes survivantes, après avoir pratiqué avec leur mari la vie religieuse, n'osaient plus se marier à nouveau. Donc, c'est des femmes qui, avec leur mari, ont vécu une vie de laïque engagée, avec une vie de prière. Dans les paragraphes que j'ai sautés, c'est que Dominique demandait à ses hommes d'avoir une vie de prière quand même un peu consistante. Eh bien, les femmes veulent continuer cette vie de prière en étant veuves et conserver jusqu'à la fin la manière de vivre qu'elles avaient observée jusque-là. Ce que voyant, voilà le point important, d'autres veuves qui n'avaient pas appartenu à la fameuse milice, mais qui avaient résolu de rester dans le veuvage, voulurent suivre lesdites sœurs de la pénitence du bienheureux Dominique et imiter leurs observances pour la rémission des péchés. Et vous vous retrouvez avec l'invention des tertiaires dominicaines. Je résume. Les tertiaires dominicaines sont nées du désir de Dominique de s'appuyer sur des laïcs qui auraient une vie de prière un peu forte. Lorsque ces laïcs meurent, les veuves veulent garder la vie de prière et sont rejointes par d'autres veuves qui sont attirées par cette même vie-là. Et ça vous donne les tertiaires dominicaines dont la première mission est de prier. Mais en même temps, elles n'ont pas de clôture, elles circulent librement, mais ce ne sont pas des femmes apostoliques, vous voyez. Ce sont des tertiaires dominicaines, c'est-à-dire qui s'engagent à une vie de prière alors même qu'elles ne sont pas engagées dans des vœux de religion. Mais c'est du même ordre que l'équipe Notre-Dame, si vous voulez. C'est du même ordre que ceux qui appartiennent à la communauté du Chemin Neuf et qui sont laïcs, ou mieux encore que ceux qui sont dans la mouvance qu'on appelle la communion du Chemin Neuf. C'est du même ordre, enfin, que tout ce genre de choses, vous voyez. Gens qui s'engagent d'une manière ou d'une autre à avoir cette vie-là. Leur nombre se multipliant chaque jour en divers lieux d'Italie, elles obligèrent les frères habitant ces lieux de les former à la manière de vivre instituée pour la ministre par le bienheureux Dominique. C'est-à-dire que leur nombre explose et elles ressentent le besoin de se structurer. Donc, on ne peut pas simplement être 15 femmes vivant dans une ville, mais on a besoin de se structurer. Et pour ça, elles recourent aux hommes. On est quand même en Italie, hein, je veux dire, on n'est pas en Flandre, dans les Flandres, pour leur demander de les aider à se structurer. Et pour cela, elles ont trouvé un Espagnol, le frère Muño, qui a rédigé un règlement de vie, mais qui n'est pas vraiment une règle. Et le frère Raymond de Capoue continue, ce n'est pas une règle. Et cet état n'est pas un état régulier, puisqu'il ne renferme pas les trois vœux qui constituent l'essence de toute religion. Le Seigneur Pape Jean XXII, après avoir promulgué sa clémentine contre les béguines et les bégards, ça c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, déclara que cette bulle ne s'appliquait pas aux sœurs dites de la pénitence du bienheureux Dominique établi en Italie et qu'elle ne modifiait absolument en rien leur état. Donc Catherine de Sienne rejoint les tertiaires dominicaines. La vie des tertiaires dominicaines, c'est une vie ascétique. Et quand on s'appelle Catherine de Sienne et qu'on n'a pas envie de se marier, c'est comme ça que ça se passe. Je vous saute les détails, elles ont fini par accepter de recevoir cette jeune fille. Et ça a été un peu compliqué, elles n'en voulaient vraiment pas. Mais elles ne finissent pas l'accepter. Et Catherine a une vie mystique très forte au sein de son, je ne sais pas s'il ne faut pas dire couvent, mais disons de sa maison. Son entrée chez les tertiaires dominicaines se fait en 1364. Alors qu'elle était née en 1347. Vous voyez qu'elle a du coup 27 ans. Elle n'est pas si jeune que ça. Puisque à l'époque, je vous rappelle qu'à 36 ans, on a l'âge d'être grand-mère. Donc du coup, saut de génération, c'est tous les 40 ans en moyenne. Alors qu'aujourd'hui, c'est plutôt tous les 60 ans. Alors, ça c'est son statut religieux. Le point de changement dans la vie de Sainte Catherine de Sienne, c'est le passage de la vie de pénitence à la vie dans le monde. Et ça, c'était assez inattendu. Raymond de Capoue le raconte de manière assez précise. De quoi ça vient? Ça vient d'une expérience spirituelle. Alors, je passe du coup au l'extrait suivant, donc qui est le chapitre 2, livre 2, chapitre 1. En gros, l'expérience se fait sous l'angle d'une apparition de la Vierge Marie, l'apparition du Christ, qu'elle vit un peu sur le modèle de l'Annonciation. Catherine dit à l'exemple de la bienheureuse Vierge Marie, comment donc cela se fera-t-il? Parce qu'on lui demande de sortir. Comme ma bonté en disposera et l'ordonnera, répondit le Seigneur. Et la sainte, en disciple fidèle imitant son maître, continua, qu'en toute chose votre volonté se fasse et non la mienne. Donc, Catherine ne dit pas, mon état de vie, c'est d'être enfermé. Si le Seigneur me demande de faire quelque chose, je dois obéir au Seigneur, et puis c'est tout. Et elle continue en disant, avec une petite excuse, je ne suis ténèbres, et vous, lumière. Ben oui, face à Dieu, nous sommes ténèbres. Je ne suis pas, et vous êtes celui qui est. Et alors là, vous avez la théologie négative et quelques accents de Maître Eckhart. Je suis folle, et vous êtes la sagesse de Dieu le Père. Cependant, j'ose vous demander humblement, si ce n'est pas là trop grande présomption, comment se fera ce que vous venez de dire? Bon, elle est un peu bavarde quand même. Puis-je être utile aux âmes, moi misérable, si faible? Et alors là, on retrouve les accents communs à ceux de Julien de Norwich. Mon sexe s'y oppose, vous le savez bien, et pour plusieurs raisons. Soit parce qu'il n'a point d'autorité devant les hommes, au sens masculin du terme. Soit parce que les lois de l'honnêteté ne lui permettent pas de se mêler à la société de personnes d'un sexe différent. Donc, le premier point, c'est de dire, les hommes ont l'autorité. Alors, comment est-ce que vous voulez, vous, moi, que j'aille au milieu des hommes pour leur dire ce qu'ils doivent faire? Deuxième argument, en plus, on est en Italie, et en Italie, les femmes, ça ne se mélange pas avec les hommes. Alors que dans le monde germanique, ça se fait. Donc, ça sera pris quand même comme une affaire complètement indécente. Le Seigneur lui répéta ce qu'avait déjà dit l'archange Gabriel, qu'il est impossible de trouver en ce que l'esprit conçoit quelque chose d'irréalisable pour Dieu. Et alors là, vous avez la théologie de Catherine de Sienne. Ne suis-je pas celui qui a créé le genre humain? Genèse 2, former l'un et l'autre sexe. Est-ce que je ne répands pas où je veux la grâce de mon esprit? Pour moi, pas de distinction d'hommes ou de femmes, de plébéiens ou de nobles. Ah oui, parce qu'en plus, Catherine de Sienne, elle ne vient pas de la noblesse. Elle vient plutôt d'un milieu assez populaire. Toutes choses sont égales devant moi, car ma puissance les atteint également toutes. Alors, en gros, là où le Moyen-Âge était un monde bien organisé, le Seigneur dit à Catherine, moi, je suis libre de la règle ou de l'ordre du monde. C'est quelque chose comme ça. Mais le XIVe siècle médite ça, en fait. Hein. Comment est-ce que Dieu peut être libre dans un monde organisé? Ça vous donne celui qui est à la base de la totalité de la modernité, qui s'appelle Guillaume d'Ockham. Il médite tellement la liberté de Dieu qu'il finit par dire n'importe quoi. Alors, on continue. Il continue en disant, ça c'est le Seigneur qui parle encore, en ce temps-ci, il y a un tel débordement d'orgueil, surtout parmi ceux qui se croient lettrés et sages, donc ceux des universités, que ma justice ne peut attendre plus longtemps pour les confondre par un juste jugement. Mais parce que ma miséricorde règne toujours sur toutes mes œuvres, je vais commencer par infliger à ces orgueilleux une confession qui leur sera salutaire et utile, s'ils veulent s'humilier en rentrant en eux-mêmes. Je vais donc, pour confondre leur témérité, leur susciter des femmes ignorantes et faibles par nature, mais que j'aurai dotées de la sagesse et de la puissance divine. Donc, l'idée de dire, les hommes de pouvoir ne savent pas écouter la voix du Seigneur, dont je vais envoyer une femme mystique le faire. Et je ne l'ai pas dit, mais Catherine de Sienne, c'est la première femme à avoir été déclarée docteur de l'Église par Paul VI en 1970. Alors, elle finit donc par intervenir. Alors, je vais développer quelques lieux d'intervention. Ça commence d'abord par, de manière très simple, par un rôle de conseiller spirituel. Elle intervient notamment auprès d'un dominicain, auprès d'un franciscain, voilà, de conseiller spirituel. Mais au XIVe siècle, ce n'est pas choquant qu'une femme soit conseillée spirituelle, que les recluses le sont. Mieux encore, Mieux encore, l'horizon ecclésial s'élargit. En 1371, elle rencontre à Bologne le cardinal Pierre d'Estaing, alors qu'il n'a rien à voir avec la famille de notre ancien président, comme ça, mais le cardinal Pierre d'Estaing est quand même quelqu'un d'assez important, surtout qu'il est ensuite devenu pape, et il a rencontré Catherine de Sienne à Bologne, qui fait partie des États pontificaux, hein, Bologne, c'est pas en Italie. Hein. Et c'est par le cardinal Pierre d'Estaing que Catherine de Sienne commence une correspondance avec l'entourage du pape Grégoire XI. Il est à Rome, à Avignon à l'époque. Hein. Comment ça? Alors, Catherine de Sienne ne se contente pas d'intervenir quand on l'appelle. Elle fait mieux, elle intervient quand on ne l'appelle pas. Et du coup, en 1375, cette tertiaire dominicaine, vous voyez, une femme de peu, écrit plusieurs lettres à Grégoire XI, vous les trouvez très facilement sur Internet, hein, ces lettres-là, pour l'inviter à quitter Avignon pour Rome. Elle ose. Et pourquoi ? Deux motifs. Premier motif, motif spirituel le plus important. Le pape est le successeur de Pierre. L'évêque d'Avignon n'est pas le successeur de Pierre. Donc, le pape doit vivre à Rome, même si c'est dangereux pour lui. Deuxième motif théologique cette fois-ci, à Rome, le pape sera indépendant des pouvoirs politiques, davantage qu'à Avignon, où il est quand même un peu l'otage du roi de France. D'accord ? Ça, c'est la première chose qu'elle fait. Elle continue. En avril 1376, Catherine de Sienne se rend à Avignon. Donc, vous avez une femme mystique qui est censée vivre à Sienne, tertiaire dominicaine, d'une vie quand même un petit peu austère, prend ses valises et va à Avignon. Donc, c'est quelques jours de voyage hein, quand même. Hein. C'est pas... C'est pas rien quand même. Pourquoi faire ? Parce que elle cherche à résoudre un conflit entre Florence et le pape. Alors, je vous épargne les détails de cette affaire. Il y avait un conflit grave entre le pape Grégoire XI et la ville de Florence. Tellement grave que le pape avait jeté l'interdit sur la ville. Je crois que vous en avez déjà parlé de cette histoire d'interdit. Ça voulait dire que le pape avait interdit la célébration des sacrements dans toute la ville de Florence, mais que la ville de Florence avait passé outre. Donc, du coup, célébrer des sacrements qui étaient schismatiques, si je vous dis les choses dans ces termes-là. Enfin, c'est une crise quand même un petit peu embêtante. Donc, que fait Catherine ? Elle va trouver le pape pour tenter une conciliation entre Florence et Avignon. Ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Elle reste à Avignon. Et elle reste à Avignon pour une seule chose, c'est pour obtenir du pape qu'il retourne à Rome. Vous voyez, c'est-à-dire qu'elle est quand même une femme assez maligne. Vous allez dire filoute, parce que on l'appelle à Avignon pour faire la paix avec Florence. La mission diplomatique échoue, mais par contre, elle reste pour obtenir ce qui, elle, lui paraît important, c'est-à-dire le retour du pape à Rome. Elle demande au pape deux autres choses. Donc la première, le retour à Rome. La deuxième, le fait de relancer la croisade. Alors, ça vous paraîtra peut-être un peu surprenant, mais il y a deux raisons à cela. La première raison, qui est une raison spirituelle, je vous rappelle que le XIVe siècle est celui d'une vaste offensive des Ottomans en Europe orientale, et en particulier en Albanie et dans ce qui ensuite est devenu la Bosnie. C'est en face de l'Italie. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça, mais lorsque Benoît XVI a démissionné de sa charge de pape en 2013, il l'a fait à l'occasion d'un acte qui est passé complètement inaperçu. Il a, à ce moment-là, canonisé 800 martyrs d'un seul coup. C'est énorme. 800 martyrs qui venaient tous du même village. Ce village, c'est Otrante. C'est un village qui est à la botte d'Italie, à l'entrée de l'Adriatique, et qui était le lieu par lequel passaient tous les navires turcs. Et les villageois d'Otrante se sont fait massacrer les uns après les autres sur 50 ans. Bon, c'est ça le contexte de Catherine de Sienne, en fait. Hein. C'est pas à vous dire. C'est-à-dire que pour ce qui est devenu ensuite la Yougoslavie, les pays slaves, c'est pas loin, en fait, c'est juste en face, c'est de l'autre côté. Donc ça, c'est la première raison. Deuxième raison de relancer la croisade, c'est un motif stratégique, à savoir que si les chevaliers vont combattre pour le Christ, ils arrêteront de se faire la guerre entre eux. Donc on mettra fin à la guerre de 100 ans, on mettra fin aux guerres intestines, puisqu'ils auront un but pour combattre qui, dans l'esprit de Catherine de Sienne, est un but plus noble. Donc, première demande, retourner à Rome. Deuxième demande, relancer la croisade. Troisième demande, lutter contre les abus et les péchés au sein de l'Église. Donc, ce que demande Catherine de Sienne au pape Grégoire XI, c'est la réforme de l'Église. Mais voyez, la réforme, ce n'est pas la réforme des structures de pouvoir. La réforme, c'est d'abord la réforme des cœurs. Ben, c'est ce que le pape François n'arrête pas de réclamer depuis qu'il est pape, hein, qui est la réforme des cœurs. Pas autre chose, c'est-à-dire qu'il appelle à un sursaut spirituel. Et je crois qu'on se méprend sur sa parole si on croit qu'il l'invite à une réforme des structures. Il l'invite d'abord à une réforme des cœurs. Et c'est ce que demandait Catherine de Sienne au pape. Mais il faut oser, hein, quand même. Hein. On n'a pas beaucoup d'autres exemples, hein, dans l'histoire de l'Église où quelqu'un vient comme ça trouver le pape et lui dire « Bon, attention là, ta mission de pape, c'est de faire ça. C'est pas de savoir si le roi de France a raison contre le duc de Bourgogne. Ta mission de pape, c'est de réformer l'Église, de vivre à Rome et de relancer la croisade. » Alors, ça marche. C'est fort. Hein, en septembre 1376, Grégoire XI quitte Avignon, Rome. Malgré l'opposition des cardinaux, malgré l'opposition du roi de France. Enfin, le roi de France a essayé de le retenir. Hein. Ben, Grégoire XI est parti au courant. C'est assez rocambolesque comme histoire. Et en janvier 1377, il arrive à Rome. Ça, c'était la mission romaine. À ce moment-là, Catherine de Sienne reprend sa mission diplomatique vis-à-vis de Florence. Alors, je vais vous lire, c'est le texte du livre 3, chapitre 1. Apprenez donc, bon lecteur, que Catherine reçut en ma présence du pape Grégoire XI la mission de se rendre à Florence pour y traiter de la paix entre le pasteur suprême et ses brebis, car cette ville révoltée contre l'Église ne voulait pas se soumettre. Notre sainte eut à souffrir à cette occasion beaucoup d'injustes persécutions. Malgré toutes ces menaces et toutes ces persécutions, elle ne voulut jamais quitter le territoire de cette république avant qu'Urbain VI, successeur de Grégoire XI, n'eût fait la paix avec les Florentins. Donc, elle est envoyée pour faire la paix, mais pour elle, ce qui est important, c'est la réconciliation de Florence avec l'Église, dans son sens officiel ou hiérarchique du terme. Elle réussit d'ailleurs à obtenir le début de la soumission de Florence, même si la mort de Grégoire XI interrompt un petit peu l'affaire. Mais c'est quand même chose faite. Le 28 juillet 1379. Une mission longue où elle accepte de payer de sa personne. Et il y a quand même un courage de l'affaire, hein, de Catherine de Sienne. Je quand même... J'allais dire, elle occupe la place avec l'Esprit Saint. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Je continue le paragraphe. Après la publication de cette paix, donc en juillet 1378, hein, j'ai écrit 1379 et 78, hein, elle revint à Sienne et s'occupa activement de la composition d'un livre qu'elle a dicté en langue vulgaire. Donc en langue vulgaire, ça veut dire en italien. Sous l'inspiration, enfin en toscan, puisque l'italien, ça n'existe pas. d'un esprit d'en haut. Ah, elle aussi. Et ce livre, vous savez comment il s'appelle ? Il s'appelle Les Dialogues. C'est Les Dialogues de Catherine de Sienne. Je ne sais pas pourquoi on croit que c'est compliqué. En fait, ce n'est pas compliqué comme livre. C'est le livre d'une mystique intellectuelle. Elle avait des secrétaires pour écrire les lettres qu'elle envoyait en divers pays. Donc Catherine de Sienne, tertiaire dominicaine, qui a voulu devenir tertiaire dominicaine pour être recluse, devient une femme d'affaires. Vous voyez, c'est quelqu'un qui écrit un livre, qui en même temps expédie des lettres à tout le monde, et il expédie tellement de lettres qu'elle a besoin de secrétaires. Alors, c'est aussi lié au courrier de l'époque, hein, parce que si vous êtes quelqu'un de très occupé, que vous avez beaucoup de lettres à écrire et que le courrier, il ne vous attend pas, puisque le courrier est par à cheval. Il faut absolument que vous soyez un peu efficace. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà rencontré des gens comme ça, mais c'est de plus en plus rare maintenant. Il se trouve qu'un jour, dans une vie antérieure, ou l'histoire universitaire, j'avais vraiment besoin uniquement d'un papier. Et pour ce papier-là, il se trouve que la personne qui devait le faire travaillait à la fois à la Sorbonne et au ministère de l'Éducation nationale. Il m'avait demandé de le voir au ministère de l'Éducation nationale. Et il m'a été donné de s'assister à une scène étonnante, mais je pense qu'elle est de plus en plus rare, c'est-à-dire que cet homme dictait trois lettres en même temps à trois secrétaires qui étaient dans son bureau, et il a en même temps écrit ma propre bafouille pour la signer. Ben, c'est ça ce que fait Catherine de Sienne. Faut quand même avoir une intelligence un petit peu agile. Voilà. Donc, elle dicte des lettres, et elle les priait d'être attentif à l'observer pendant les extases qu'elle avait si souvent, puis d'écrire à ce moment avec soin tout ce qu'elle dicterait. Voilà. Donc, du coup, c'est une femme de lettres, elle dicte ses livres, elle dicte sa correspondance, etc. Alors, je continue. Parce qu'il y a un petit drame. Le drame, c'est le grand schisme d'Occident dont j'ai commencé à parler tout à l'heure. Alors, si je reprends le fil de l'histoire, en janvier 1377, Grégoire XI rentre à Rome et il meurt le 27 mars 1378, donc assez vite après. À ce moment-là, à ce moment-là, était élu assez rapidement le pape Urbain VI. Mais les Français contestent l'élection d'Urbain VI et élisent un antipape qui réside à Avignon et qui est à la solde du pouvoir français. C'est Clément VII qui s'appelle, donc le antipape Clément VII, par le vrai. Que fait Clément VII ? Ça, c'est un pape assez étrange. Hein. C'est le pape soumis au pouvoir politique. Il prend la... Alors, j'espère qu'il n'y a pas de breton chez vous, hein, parmi nous, hein, parce que moi, je ne suis pas breton, donc j'ai aucun mal à dire du mal des bretons. Mais ce que fait le pape Clément VII, c'est qu'il prend, il constitue une armée de bretons, et avec les bretons, il envahit la Toscane. Donc, vous avez un pape qui devient chef militaire. Voilà ce que c'est qu'un pape qui est à la solde du pouvoir politique. Et il y a donc pendant ce temps Urbain VI à Rome et Catherine de Sienne qui, elle, eh bien, est désespérée. Parce qu'elle, elle a voulu ramener le pape à Rome, elle n'a pas voulu le grand schisme. Eh bien, que fait-elle ? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'elle décide de s'engager pour obtenir quelque chose. Alors, Urbain VI, c'est le dernier texte que je vous ai mis sur elle, ordonna à Raymond de Capoue d'écrire à Catherine de Sienne pour qu'elle aille à Rome. Donc, Urbain VI, pourquoi dit ça ? Pour qu'elle veuille le visiter à Rome, car il avait été très édifié des discours et de la vie de notre Vierge quand il l'avait vue à Avignon, n'étant alors qu'archevêque Tacerenza. Ah, donc, Urbain VI demande à Catherine de Sienne de venir à Rome, mais en fait, je crois que Urbain VI, en fait, a besoin d'aide. C'est pas juste d'une curiosité. Il a besoin d'aide, il sait plus. Bon, et que répond Catherine ? Mon père, plusieurs de nos concitoyens et de leurs épouses, voire des sœurs de notre ordre, des tertiaires dominicaines, se sont gravement scandalisés. Des visites trop nombreuses leur paraît-il. Ah oui, ben elle passait sa vie à voyager. Que mes voyages m'ont occasionné jusqu'ici. Ils disent qu'il ne convient pas à une vierge et à une religieuse de courir ainsi de tous côtés. Je sais bien que je n'ai commis aucune faute dans ces voyages. C'est pour obéir à Dieu, à son vicaire, donc au pape, et pour le salut des âmes que je me suis rendu partout où je suis allé. Donc je ne voyage pas pour mon plaisir, ni pour faire de la politique, mais pour obéir à Dieu, au pape, et pour le salut des âmes. Comme je crains de donner occasion de scandale, il n'entre pas dans mes projets de quitter Sienne à ce moment. Donc zut. Toutefois, si le pape veut absolument que j'aille à Rome, que sa volonté soit faite et non la mienne. En ce cas, veuillez me consigner ces ordres par écrit pour que ceux qui se scandalisent voient bien que je n'entre pas, que je n'entreprends pas de moi-même ce voyage. Donc, elle résiste au voyage. Le pape finit par dire « Je veux que Catherine de Sienne vienne » et du coup, elle vient. Et Raymond de Capoue raconte qu'elle ne vient pas seule, mais avec toute une troupe de femmes et d'hommes qui la suivent. Important. C'est la suite du texte. Fin du paragraphe. Elle avait une suite assez nombreuse d'hommes et de femmes, et il en serait venu bien davantage encore si elle ne s'y était opposée. Ceux qui la suivaient ainsi s'abandonnaient dans la pratique d'une pauvreté volontaire, aux soins de la divine providence. Pour l'hôtellerie, c'est pas terrible. Aimant mieux voyager et mendier avec la sainte que de rester chez eux dans l'abondance, mais privés d'une compagnie si douce et si favorable à la vertu. Donc, Catherine arrive avec sa troupe de mendiants et de mendiantes qui l'accompagnent dans son voyage à Rome. Et elle arrive le 28 novembre 1378. Ce qu'elle fait à Rome. Première chose. Alors, je vais vous lire le texte quand même de Raymond de Capoue, parce que là, il y a quand même quelque chose qui est assez intéressant sur ce qu'est l'Église médiévale. Mais on a des choses équivalentes au XXe siècle. Le souverain pontife fut très heureux de voir Catherine. Il voulut qu'elle parlât devant les cardinaux alors présents à Rome. Saint-Pontife voulut que Catherine parlât devant les cardinaux présents à Rome. Ça ne pose aucun problème au XIVe siècle qu'une femme spirituelle prenne la parole devant l'assemblée des cardinaux, donc du gouvernement du pape, et qu'elle traitât surtout du schisme qui commençait. Mieux encore, il ne demande pas à Catherine de Sienne de faire un discours spirituel sur les vertus de la Vierge Marie, mais de rentrer dans un discours politique sur la question du schisme. Et vous avez vu, c'est l'ordre du pape. Elle le fit à la perfection, les exhorta tous longuement à une courageuse constance, leur en donna de nombreux motifs et leur montra comment la divine providence avait un soin particulier de chacun d'eux, surtout en ce temps de souffrance pour la Sainte Église. La conclusion fut qu'ils ne devaient pas s'effrayer du schisme commencé. Propos spirituel, la situation est dramatique, n'ayez pas peur. Il devait faire l'œuvre de Dieu sans craindre personne. Ah, voilà l'élément spirituel. Faire l'œuvre de Dieu sans craindre personne. Quand elle eut fini, le pontife tout joyeux résuma son discours. Enfin, c'est vraiment comme aujourd'hui. Il invite quelqu'un, elle fait une conférence, et à la fin, lui qui est le chef prend la parole 3 minutes pour ressaisir ce qui a été dit. C'est vraiment comme les conférences d'aujourd'hui. Et s'adressant aux cardinaux, leur dit, intéressant, « Voyez, frères, combien notre timidité nous rend coupables aux yeux du Seigneur. Cette petite femme nous confond. » Sous-entendu, ce petit bout de femme. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, il se précise. Si je l'appelle petite femme, ce n'est point par mépris, mais pour rappeler la faiblesse naturelle de son sexe et pour notre instruction. Alors, vous voyez, on se retrouve avec l'idée de la, avec l'idée de ce lieu commun de la faiblesse des femmes, mais ce qui est important chez Urbain VI, c'est de dire pour notre instruction. On a quelque chose à apprendre d'elle, parce qu'elle nous dépasse largement en vertu spirituelle. Il serait naturel qu'elle demeurât craintive, alors même que nous serions pleinement rassurés. Et maintenant que nous nous tremblons, c'est-à-dire les cardinaux à Rome savent plus quoi faire, la voilà ferme et tranquille, qui nous réconforte par ses exhortations. C'est là pour nous un grand sujet de confusion. Il faudrait traduire, c'est là pour nous un grand sujet de honte. C'est-à-dire, cette femme nous fait honte en réalité. Et il continue en disant que doit donc craindre le vicaire de Jésus-Christ, puisque si, même si tout le monde luttait contre lui. Voilà. Alors après, elle est donc à Rome. Et je saute quelques éléments. C'est que le pape, non, je vais le lire quand même, parce que ça c'est important. Parce que c'est quand même toujours ce que fait le pape. Urbain VI eut la pensée d'envoyer Catherine auprès de Jeanne, reine de Sicile, qui s'était révoltée contre l'Église à l'instigation du démon et donnait toute sa faveur au schisme et à ses partisans. Donc Jeanne de Sicile, c'est Jeanne d'Aragon, finit par a pris le soutien de l'antipape Clément VII, et du coup, ce que cherche à faire le pape Urbain VI, c'est d'obtenir son soutien. Notre sainte aurait eu comme compagne pour cette mission une autre vierge, nommée aussi Catherine, fille de cette sainte Brigitte de Suède. Ah oui, tiens, celle-là, j'en ai pas parlé. Le souverain pontife espérait que ces deux vierges bien connues de la reine Jeanne réussiraient à lui faire quitter la fausse voie où elle s'était engagée. Le problème, c'est que Catherine de Suède n'a pas envie. Donc, du coup, le voyage n'a pas lieu. Et ce que fait à ce moment-là Catherine de Sienne, c'est qu'elle se lance dans une grande activité épistolaire. C'est-à-dire qu'elle écrit au souverain. Elle écrit en fait à tout le personnel politique qui compte dans l'Europe occidentale pour qu'il reconnaisse Urbain VI comme vrai pape. Elle écrit aux cardinaux qui ont élu Clément VII pour les ramener à l'unité de l'Église. Donc, elle fait vraiment quelque chose en s'engageant véritablement de cette manière-là. Bon. De toute façon, elle finit par mourir sans voir le résultat de son action le 29 avril 1380 dans le centre de Rome. Bon. J'ai marqué sur mon papier d'anorexie, mais parce qu'en fait, elle avait arrêté de manger. Donc, je n'ai pas d'autre manière de décrire les choses. C'est quand même un destin un peu exceptionnel, hein, quand même. Hein. Catherine de Sienne. Ça va? Des réflexions sur Catherine?
Pourquoi est-ce qu'elle avait pourquoi est-ce qu'elle a souhaité tout d'un coup de s'arrêter de manger?
Vie spirituelle.
Ah, totalement, d'accord.
Vie spirituelle. Je pense que c'était une question à la fois de jeûne pour l'Église, de désir de retraite. C'est-à-dire que là où Catherine n'est pas à l'aise, c'est qu'elle qui rêve en fait de vivre à Sienne. Elle n'a pas du tout envie de voyager. Il ne faut pas imaginer que c'est une femme qui est contente d'aller à Avignon, etc. Elle rêve d'être à Sienne et elle se retrouve à Rome, qui est quand même l'endroit le plus épouvantable qui soit. Qui est une chose difficile à Rome. Parce que vous êtes au pied des martyrs, vous êtes au pied de Pierre et Paul, vous êtes vraiment dans un endroit important. Et dans le même temps, vous êtes aussi au cœur des difficultés de l'Église. Et Rome, c'est ça aussi aujourd'hui. Hein. C'est les deux à la fois. Et là, bon. Et du coup, elle, qui est une femme spirituelle, sa manière d'être une femme spirituelle à Rome, c'est d'accentuer sa vie ascétique.
D'accord. Merci.
Voilà. Merci. Une autre réflexion ou question? Alors, dans la dernière demi-heure qui me reste, je vais faire quelques éléments sur le XVIe siècle. J'aurais voulu vous parler de Pauline Jaricot, mais tant pis, ça serait un échec, parce que là, c'est trop loin. J'ai pas envie de bâcler. Je préfère parler un peu de Jeanne de Chantal et de Marguerite Nazo, qui sont pour moi deux femmes parallèles, en portrait croisé, si vous voulez. Alors, Jeanne de Chantal. Jeanne de Chantal, vous la connaissez, j'imagine, un peu. Si vous n'avez pas lu la lettre que le pape a adressée à l'occasion de l'anniversaire de Saint-François de Sales, lisez-la, parce que c'est une lettre remarquable sur l'actualité de la spiritualité salésienne aujourd'hui. Bon, parce qu'elle est liée à Saint-François de Sales. Alors, si je résume quelques éléments, on a sauté de deux siècles, puisque maintenant on est à la fin du XVIe, début du XVIIe siècle. En pleine, après les guerres de religion, en période toujours difficile, Mais bon, à un moment où la question qui se pose, c'est toujours et toujours comment assurer la vie spirituelle dans l'état de vie qui est le nôtre. Mais c'est la question permanente dans l'Église. La question qui se pose, la vie spirituelle d'une femme qui élève des enfants et qui travaille n'est pas exactement la même que la vie spirituelle d'une femme qui ne travaille pas. C'est la question qui se pose. Comment j'assure la vie spirituelle de quelqu'un dans la vie où il est ? La vie spirituelle du travailleur, du paysan du XVIe siècle qui a peu de distance est différente de la vie spirituelle du banlieusard qui a 3 heures de transport par jour. Enfin, c'est une question très concrète, mais c'est une question qui se pose tout le temps, en fait, dans comment faire pour avoir une vie spirituelle. Voilà. Alors, la baronne Jeanne Frémiot de Chantal devient veuve en 1601 de manière dramatique. C'est comme ça, c'est presque d'actualité pour notre vie française, puisque son mari est mort d'un accident de chasse, tué par son meilleur ami, d'une balle perdue. Voilà, bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas chasser, en fait. Alors, la baronne Jeanne de Chantal a une intense vie spirituelle, vraiment intense vie spirituelle, et elle veut se consacrer à Dieu. Le problème, c'est qu'elle ne sait pas comment faire. Et comme elle ne sait pas comment faire, elle commence par se tromper. C'est-à-dire qu'en 1602, elle va se mettre sous la direction d'un vieux religieux qui manque complètement de discernement. Le vieux religieux qui manque de discernement, tout simplement, invite la baronne de Chantal à multiplier les exercices de piété. Alors que c'est une jeune veuve, elle a 4 enfants à charge, jeune veuve, elle est du coup aussi propriétaire de je ne sais combien d'hectares de terre, avec ce que ça veut dire de paysan, etc. Parce qu'un baron, à l'époque, c'est un propriétaire terrien. Donc, c'est quand même compliqué. En plus, elle a son père à soutenir, plus son beau-père à soutenir. Enfin, donc, c'est quand même une histoire compliquée. Et le vieux religieux Carme, lui, fait n'importe quoi. Et en plus, il est exactement dans la catégorie de l'emprise spirituelle, puisqu'il est... Il interdit à la baronne de Chantal d'aller voir quelqu'un d'autre que lui. Ça, c'est l'abus spirituel par excellence. Pourtant, la baronne de Chantal rencontre par hasard, alors vraiment par hasard, Saint François de Sales. Elle le rencontre par l'intermédiaire de son beau-père, de son père, pardon, à Dijon, où Saint François de Sales, en 1604, donne les conférences de carême. Alors, Saint François de Sales, pourquoi est-ce qu'il donne des conférences de carême à Dijon ? Ben c'est normal, il est évêque de Genève. Mais quand vous êtes évêque de Genève en 1604, vous risquez d'être tué si vous vous montrez à Genève. C'est aussi simple que ça. Du coup, il ne vit pas à Genève, mais il réside à Annecy. C'est-à-dire que l'évêché d'Annecy, le diocèse actuel d'Annecy, en fait, c'est l'héritier du diocèse de Genève qui, à un moment... Où, enfin, ça c'est vrai, la persécution anticatholique à Genève a duré jusqu'à la fin du XIXe siècle. La première église catholique qui a le droit de se monter à Genève, c'est 1905. Faut pas du tout imaginer que le monde calviniste est un monde libéral. Hein. C'est au contraire un monde à la fois très austère et regarder les règlements pour les femmes calvinistes, c'est vraiment pas très drôle en fait. Hein. Voilà, mais c'est comme ça. Mais bon, c'est dans les deux sens. Hein. Mais là, enfin, je dis ça parce qu'en France, nous, on croit que les calvinistes sont les gentils, que les catholiques sont les méchants, mais dans les pays calvinistes, la persécution anticatholique est très forte, en fait. Alors, du coup, l'évêque de Genève ne peut pas résider à Genève. En revanche, lui, c'est un homme qui est très réputé à l'époque pour la direction spirituelle. En fait, c'est un bon directeur spirituel, c'est un charisme, si vous voulez, qu'il a comme ça. Et il rencontre du coup Jeanne de Chantal en février 1604. À la différence du vieux religieux, il ne s'impose pas. Ce n'est pas quelqu'un qui va dire à la baronne « Oh là là, toi, je vais devenir ton directeur. » Parce que de toute façon, dans tous les cas, si un prêtre, ou même un laïc, dit à quelqu'un « Je vais devenir un directeur », il faut tout de suite lui répondre non. Parce que ça veut dire qu'il n'y a pas de liberté. En revanche, comme elle va quand même lui poser quelques questions, il lui répond. Et c'est comme ça qu'il finit par devenir son directeur spirituel. Parce que il comprend que Enfin, Jeanne de Chantal, elle, son premier progrès spirituel, c'est de comprendre que le respect dû au confesseur ne doit pas entraver la liberté de l'Esprit-Saint. Le respect dû au confesseur ne doit pas entraver la liberté de l'Esprit-Saint. Alors qu'elle, c'était plutôt une femme très obéissante, une pieuse et très obéissante. Alors que fait François de Sales quand il commence la direction spirituelle de Jeanne de Chantal? Eh bien, il fait cinq choses. Bon, ça, c'est pour vous donner un peu le monde. Première chose, il diminue tous les exercices de dévotion de Jeanne. Alors, parce qu'elle, elle voulait vivre comme démoniale. Alors que Saint François de Sales, c'est toujours de dire, les carmélites doivent mener une vie de carmélite, les non-consacrés n'ont pas à mener une vie de carmélite. Donc, ça, c'était la première chose. La deuxième, il limite ses aumônes. Parce qu'elle était prête à donner tous ses biens. Et lui dit, mais enfin, vous avez quand même 4 enfants à charge. Donc, il faut quand même gérer vos biens correctement. La troisième chose que fait Saint-François de Sales, c'est qu'il lui donne une priorité, l'éducation des enfants. Vous avez donc le devoir d'être en bonne santé pour éduquer vos enfants, correctement. Quatrième conseil de Saint-François de Sales, l'austérité, parce qu'elle voulait être austère. Et Saint-François de Sales, il est fin. Il avait remarqué qu'elle ne voulait pas manger grand-chose, mais que par contre, elle était extrêmement difficile sur ce qu'il y avait dans son assiette. Elle lui dit, c'est pas comme ça que tu vas vivre. Tu vas manger tout maintenant. Et ça sera pour toi beaucoup plus austère de manger de tout en petite quantité que de choisir ta nourriture. Ah oui. Ça serait bien qu'en carême, les fidèles catholiques mangent les aliments qu'ils n'aiment pas, en fait. C'est quand même intéressant, hein, quand même. Parce que choisir ses aliments, c'est quand on vit dans l'abondance. Quand on est dans la pauvreté, on ne choisit plus. Ça fait partie. Voilà. En gros, c'est ce que dit cette affaire. Cinquième conseil, la vie spirituelle forte de Jeanne de Chantal ne doit pas être un poids pour son entourage. Alors, pourquoi est-ce ça ? C'est une histoire très idiote. C'est que Jeanne de François de Chantal, c'est une femme aristocratique qui se dit, mais enfin, quand même, pour prier le bon Dieu, il faut que je sois quand même présentable devant le bon Dieu. Traduction, je ne vais quand même pas prier le Seigneur en pyjama. Il faut donc que je sois habillé et coiffé. Le problème, c'est que moi, j'ai envie de me lever tôt. Parce que la prière matinale, c'est bien. Donc, il faut faire ma prière le matin à 5 heures. Ça veut donc dire que la coiffeuse et la habilleuse doivent venir à 4 heures pour être présentable devant Dieu. Ça fait remarquer à Jeanne de Chantal que ça, c'est de l'esclavage. Ce n'est pas une bonne direction, puisqu'on impose aux autres son propre rythme spirituel. Il lui dit, vous pouvez parfaitement prier le Seigneur en pyjama. Et la coiffeuse viendra après la prière. Des choses comme ça. Mais voyez, Sainte de Chantal, c'est une femme un peu généreuse, mais qui avait besoin d'être un peu quand même réglée dans ses dévotions. Bon, ce n'est pas le truc le plus important que je voulais raconter, mais c'est juste pour resituer le contexte. La vraie question de Jeanne de Chantal, c'est celle de son état de vie. Parce que Jeanne de Chantal ne veut pas se remarier. Elle est veuve. Elle voudrait entrer au Carmel. Et elle avait même trouvé le Carmel de Dijon. Le Carmel de Dijon, il est très connu aujourd'hui. C'est celui de Flavignereau, si vous connaissez. C'est le Carmel de cette sainte femme. Encore une mystique intellectuelle qui est Sainte-Élisabeth de la Trinité. Eh bien, c'est le troisième Carmel réformé par Sainte-Thérèse d'Avila en France. Donc, si vous voulez, c'est vraiment le Carmel qui est dans la réforme religieuse. Donc, elle veut rentrer là-dedans. Et savez-vous ce qui se passe? Les Carmélites n'en veulent pas. Et pourquoi les Carmélites n'en veulent pas? Pour un motif très simple et qui est le seul motif audible, qui est le premier motif audible. Les Carmélites disent, ce n'est pas le projet de Dieu pour vous. Donc, on ne vous acceptera pas. C'est un motif spirituel. Enfin, ce n'est pas un motif humain. Ce n'est pas de dire « j'en ai pas capable ». C'est « ce n'est pas le projet de Dieu pour vous ». Alors, François de Sales, du coup, se trouve un petit peu embêté. Parce qu'il a une veuve qui veut devenir carmélite, mais qui ne peut pas devenir carmélite. comment est-ce qu'on va faire ? Alors, du coup, il a une idée. Il a une idée, parce que Jeanne de Chantal, elle n'est pas très prudente. Enfin, vous avez compris que ce n'est pas vraiment une femme prudente, en fait. Donc, elle, elle est prête à devenir religieuse dans n'importe quelle congrégation qui l'acceptera. Ce n'est pas comme ça qu'on fonde sa vie spirituelle. Du coup, l'idée de François de ça, ce n'est pas ça. C'est de dire, non, non, en fait, on va fonder un institut accueillant des jeunes filles et des veuves. Ah, ça vous rappelle quelque chose, on retrouve l'idée encore. Hein. C'est un peu comme les tertiaires dominicaines, mais en sauce française. Voilà. Dans l'idée de François de Sales, cet institut ne doit pas être un cloître fermé, parce que sinon, autant devenir carmélite. Hein. Ça doit être un monastère ouvert sur le monde, tout en visitant les pauvres et les malades. Alors, avec un choix de la pauvreté. C'est-à-dire, l'idée, c'est que les femmes qui rejoignent cet institut doivent donner tout leur bien. Donc, ce n'est pas des béguines, vous voyez. Elles donnent tout leur bien. Et en plus, on les trouve, les femmes, parce que, bon, s'il n'y avait que Jeanne toute seule, ça ne serait pas très intéressant. Mais en fait, ils trouvent, alors. Les copines s'appellent Jacqueline Favre. Il y a aussi Jacqueline Coste, une pauvre servante catholique de Genève, qui est victime de la persécution anticatholique et qui se réfugie à Annecy. Mieux encore, donc on a trouvé des gens et on a trouvé une maison qui est sur les hauteurs d'Annecy. Et du coup, on se retrouve en 1610 avec quatre femmes vivant ensemble qui ne sont pas religieuses. D'ailleurs, elles n'ont pas d'habit. Elles ont un habit modeste. Si vous voulez, Jeanne de Chantal, la baronne, a dû renoncer aux habits aristocratiques. Ça, c'était une question ascétique pour elle. Mais elles n'ont pas d'habit religieux en tant que tel. Elles ont un habit modeste. Elles ont un petit apostolat qui est le service des malades. Comme elles vivent ensemble, elles ont une vie de prière commune. Saint François de Sales, qui est un homme prudent, leur demande de prier, alors, excusez-moi pour cette petite incursion dans la liturgie non rénovée, de prier ce qu'on appelait le petit office de la Sainte Vierge. À savoir que dans les monastères, vous aviez le grand office. C'est les grandes heures monastiques avec les offices à rallonge, aux mélodies grégoriennes complexes, et qui sont des chefs-d'œuvre musicaux, et qui peuvent tout à fait aider à prier. Mais Saint-François de Sales se dit, mais alors là, mes quatre femmes, si je leur demande de faire ça, ça va être la catastrophe. Elles sont quatre, elles ne savent pas chanter, et en plus, elles sont ouvertes sur le monde, donc on ne va jamais y arriver. Donc, on va être un peu plus modeste. On va prier le petit office de la Sainte Vierge, qui est un office réduit, aux mélodies simples, donc elles arriveront quand même à chanter ce truc-là, même si elles chantent un peu fou. Et le 2 juillet 1610, on appelle cette petite communauté la Visitation. Parce qu'à l'époque, le 2 juillet, c'était la fête de la Visitation qui a été ensuite transférée au 31 mai. Donc, les visitandines, à l'image de la Sainte Vierge, doivent être des femmes de contemplation. La Vierge Marie gardait toutes ces choses dans son cœur. Tout en visitant les blessés de la vie, donc les malades, les pauvres, etc. Donc, des visitandines, voyez, qui réunissent l'annonciation et la visitation dans leur vie. C'est quand même assez innovant comme idée, comme, en fait, comme idée. Alors, le problème, c'est que le 6 juin 1611, Saint-François de Sales leur donne une règle, alors une règle qui n'est pas du tout la règle habituelle des règles monastiques, parce que les Salésiens, ça vit de manière incarnée. Mais alors, de manière incarnée, ça ne veut pas dire dans le confort, ça veut dire je pratique le détachement de soi tout en allant au rythme auquel je peux. Bon. La seule chose particulière de ces femmes, c'est qu'elles visitent les malades. Alors, de manière restreinte, hein, pas plus de 2 heures par jour. Elle leur apporte des vivres, des remèdes, parce que notre amie Sainte-Jeanne de Chantal, elle était devenue une pharmacienne, en fait, finalement. Dans son château, il y avait tout un rayon de pharmacie. Du linge, et si besoin, elles vont chercher le médecin et le prêtre. Alors là, vous avez la religion. En fait, ce qu'on connaît aujourd'hui sur ce modèle-là, enfin, qui a un peu disparu en Europe parce qu'elles n'ont plus de vocation, mais ça, c'est le problème de l'Europe occidentale, de toutes ces femmes qui connaissaient tout le monde dans les quartiers et qui étaient capables d'aller partout. Voilà. Alors, le problème, je vous ai mis les textes, c'est que cet état de vie dérange. Comment peut-on laisser des religieuses abandonner la clôture pour visiter des malades ? Ben, ça, c'est un vrai problème de l'Église du XVIIe siècle. Et ça, pour le coup, c'est un échec. Ça, c'est un des rares cas où je le dirais de manière aussi ferme que ça. Alors, en fait, comment s'est passé cet échec ? Je vous ai mis les textes, mais comme je ne vais pas les lire, ça serait trop long, mais vous les lirez vous-même. C'est que alors que François de Sales est très heureux de ces femmes qui ont une vie pour lui équilibrée, l'archevêque de Lyon, lui, il a envie d'en avoir quelques-unes chez lui. Mais comme il a envie d'en avoir vu quelques-unes chez lui, il commence d'abord par faire quand même une petite enquête. C'est normal, hein, je veux dire, s'il y a un truc original qui se passe quelque part, que je vais faire venir chez moi, je me demande si ça vaut le coup, si c'est bien, si c'est pas bien. Enfin, c'est tout à fait normal. Et du coup, cet archevêque de Lyon, qui s'appelle le cardinal de Marquemont, vient faire une visite à Annecy de la communauté. Tout lui plaît sauf deux choses. La première chose qui ne lui plaît pas, c'est les visites aux malades. Enfin, vous allez me dire, bah, c'est quand même un peu essentiel. Oui, de fait, oui. Mais ça ne lui plaît pas, parce que pour lui, c'est un obstacle à la vie contemplative. Alors, vous direz, ça, c'est un cardinal qui ne comprend pas, en fait. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que c'est un homme qui ne comprend pas, mais de fait, il ne comprend pas. La deuxième chose qui ne lui plaît pas, c'est la pauvreté liturgique de la communauté. C'est-à-dire le fait qu'elle se contente de ce petit office de la Sainte Vierge et qu'elle ne chante pas les grands offices monastiques. Bon, autrement dit, ce qui ne plaît pas au cardinal de Marquemont, c'est que ses visitandines ne soient pas des religieuses en bonne et due forme. Alors faites attention, ne faites pas du cardinal de Marquemont le diable en personne, c'est un homme spirituel. Il n'en reste pas à sa première impression. Et du coup, c'est assez bien raconté dans les textes que je vous ai mis. Ce qu'il fait, c'est qu'il consulte très largement des supérieurs d'ordre, des théologiens, des parents qui, dont la fille est entrée à la visitation, des parents dont qui ont refusé à leur fille d'entrer à la visitation. Donc, c'est quelqu'un qui vraiment fait une consultation assez large. Vous voyez, ce n'est pas quelqu'un qui en reste à sa première impression. Mais il demande des changements. Alors là, du coup, il y a un conflit entre l'archevêque de Lyon et l'évêque de Genève en résidence à Annecy. Il refuse le vocable de la visitation parce qu'il ne veut pas céder sur les visites aux malades. Alors, il s'agit dans son état d'esprit de faire respecter la réforme religieuse demandée par le Concile de Trente. Deuxième chose, alors que les visitandines n'émettaient pas des vœux solennels, c'est-à-dire n'étaient pas des religieuses en bonne et due forme, il demande que ses sœurs émettent des vœux solennels, donc deviennent des religieuses. Troisième chose, alors que les visitandines accueillaient des veuves qui avaient des enfants à éduquer et des affaires temporelles à régler, enfin des biens, il est assez dubitatif là-dessus. En gros, pour Marquemont, pour devenir visitandine, il faut que vos enfants soient devenus majeurs et que les biens temporels aient été réglés. Au contraire, pour Saint-François de Sales, on pouvait devenir visitandine sans avoir réglé tout cela. Mais en revanche, en continuant de le régler et en se donnant les moyens de le faire. Alors, face à cela, François de Sales tente un compromis. Du coup, là, on a un conflit. Le compromis est le suivant. Il accepte la clôture stricte, c'est-à-dire l'abandon des visites aux malades. Et c'est peut-être la chose la plus dommage. Puisqu'en fait, on se retrouve avec un ordre contemplatif de plus, qui n'est pas très différent des autres. Du coup, conséquence logique, il accepte les vœux solennels. Par contre, il ne cède pas sur la question liturgique. C'est-à-dire, il ne veut pas faire des couvents de visitandine de nouveaux monastères bénédictins. Donc, on continuera à chanter mal le petit office de la Sainte Vierge en disant le charisme des visitandines, ça ne sera pas le choix. Il ne cède pas non plus sur la question des visites à l'intérieur du couvent. Les enfants doivent pouvoir visiter leur mère. Donc, le raisonnement étant de dire ce qu'il y a de prioritaire, c'est la famille. Charnel. Et enfin, il ne cède pas non plus sur une autre de ses intuitions dont je n'avais pas parlé, le fait que des laïcs puissent vivre des retraites temporaires chez les visitandines. Chose qui ne se faisait pas du tout avant. Voilà, aujourd'hui, nous, ça nous paraît normal. On a envie de faire une retraite, prof, on prend sa valise et on va passer une semaine dans un monastère. Au XVIIe siècle, c'est inimaginable de faire un truc comme ça. Soit vous êtes en voyage et vous êtes accueilli deux jours au monastère, soit vous voulez faire profession monastique et vous entrez dedans, mais vous ne faites pas des retraites comme ça. Et Saint-François de Sales, qui est un génie de la spiritualité laïque, avait eu cette idée, mais en fait, on a besoin de s'arrêter parfois. Et du coup, il avait eu l'idée que les visitations pouvaient être aussi des lieux où des laïcs pénètrent, femmes pour le coup, évidemment, pénètrent à l'intérieur pour un temps temporaire de retraite. Et du coup, comme ça, ça lui paraît important, il ne cède pas. Conséquence, en 1618, les visitandines sont reconnues par le pape Paul V comme ordre religieux contemplatif avec quelques spécificités, pauvreté de la vie liturgique et une certaine ouverture sur le monde par le biais des retraitants extérieurs. Pour moi, c'est quand même un échec, hein, ça. Parce que ça veut dire que l'intuition initiale a été complètement trahie. Mais l'Esprit Saint ne se laisse pas enfermer par les cardinaux et de manière presque contemporaine, quelques années plus tard, on a l'innovation qui se fait. C'est-à-dire l'innovation de femmes menant une vie religieuse de prière en commun tout en visitant les malades. Et ça, ça s'appelle les filles de la charité, qui sont décisives dans l'histoire occidentale, parce que c'est grâce à elles que toutes les communautés apostoliques ont pu exister. C'est vraiment grâce à elles. Et grâce au génie de Saint Vincent de Paul, et d'une femme dont je vais vous parler maintenant, qui est peu connue, même des grands historiens. Or, je vous en parlerai peut-être avec un peu de passion parce que son procès en béatification est en cours et que je suis un peu lié à cette affaire et que les gens qui font ça me houspillent parce que je suis en retard. Mais voilà. Alors, Marguerite Nézo, c'est la même chose. Naît en 1594 et meurt en 1633. Qui est-elle ? Une vachère de Suresnes. Donc, elle garde les vaches à Suresnes. Les vaches à Suresnes, à l'époque, étaient dans la plaine de Longchamp. Donc, dans le bas, si vous voulez savoir où était la plaine de Longchamp, c'est très facile. Vous allez au niveau de le petit moulin. Enfin, les gens qui connaissent la banlieue parisienne, par exemple, parce que je suis désolé, je parle pour mon diocèse. Vous connaissez le moulin de Longchamp qui est dans le bois de Boulogne. Eh bien, ça, c'est la plaine de Longchamp qui appartenait à la commune de Suresnes ou à l'abbaye de Longchamp, selon les cas. Donc, elle garde les vaches de la commune de Suresnes. Donc, c'est une fille simple, mais n'en faites pas non plus une pauvresse. Elle vient pas du tout d'une famille aisée, d'un milieu simple, mais pas non plus si pauvre que ça. Son oncle est le curé de Suresnes à l'époque. Vous voyez, vous donnez un peu le milieu. Alors, Marguerite Nézo, c'est une femme un peu étonnante, parce qu'elle est prévue pour garder les vaches, mais elle a envie d'apprendre à lire et à écrire. Et pourquoi est-ce qu'elle veut apprendre à lire et à écrire ? Pour devenir maîtresse d'école. Alors, personne ne comprend comment elle a eu une idée pareille. Tout le monde dit que c'est Dieu qui le lui a inspiré. Je n'ai peut-être pas d'autres explications. De fait, à Suresnes, à l'époque, il y a uniquement une école de garçons paroissiale. Alors, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va trouver le curé, son oncle, en lui demandant de lui donner un abécédaire. Il ne veut pas. Donc, elle va trouver le vicaire. Parce que quand le curé ne veut pas, parfois le vicaire est plus gentil. le vicaire lui donne un abécédaire. Ah, très bien, mais ça ne suffit pas d'avoir un abécédaire pour apprendre à lire. Eh bien, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous gardez les vaches? Quand vous gardez les vaches, vous avez du temps. Vous avez du temps pour prier, et puis vous avez du temps pour dessiner, et vous avez du temps pour regarder. Mais vous avez aussi du temps pour autre chose. Vous avez du temps pour discuter. Alors, qui est-ce qui passe sur la plaine de Longchamp à l'époque de Marguerite Nézot? Eh bien, tous les voyageurs qui vont de Neuilly à Nanterre, en contournant le Mont Valérien. Et du coup, notamment ces voyageurs-là, c'est les marchands, qui, eux, savent lire et écrire. Et donc, Marguerite Nézot apprend à lire et à écrire toute seule. Comme ça. Alors, c'est très, très méthodique. Elle a son abécédaire. Montre-moi cette lettre. Quelle est cette lettre? Et quand elle a bien appris la lettre, elle passe à la lettre d'après. Et puis après, elle associe les lettres. On veut la méthode syllabique bête et méchante qu'elle apprend de cette manière-là, toute seule. Ça serait beau que dans les écoles catholiques, on donne ce modèle-là aux enfants, en fait. Voyez, à force d'obstination. Une fois qu'elle sait lire et écrire, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle accomplit son projet. C'est-à-dire qu'elle devient maîtresse d'école. Alors, maîtresse d'école itinérante. Alors, on ne connaît pas très bien, parce que là, il y a des flous. Manifestement, elle est chassée de Suresnes parce que ça fait quand même un peu désordre. Et on la retrouve quelques années après à Villepreux. Si vous connaissez cette ville qui est dans les Yvelines, très loin de Plaisir, enfin voilà. Bon. On la retrouve à Villepreux où elle a monté une école de filles. Pareil, elle apprend à lire aux filles. Alors, c'est aussi peut-être de sa part, je ne sais pas si c'est une forme de féminisme, mais c'est une manière aussi d'avoir pris conscience que l'alphabétisation était le premier lieu de la sortie de la misère. Ou que l'alphabétisation était un des lieux importants de la libéralisation, de la libération. Bon, vous me connaissez, mais tant pis, pour le coup, c'est un vrai jugement que je fais. Mais quand l'école est en crise, on doit être très inquiet sur l'avenir, en fait. Parce que ça veut dire qu'il n'y a plus de liberté possible. Et à l'inverse, je pense à un pays pour lequel j'ai de l'affection pour toutes sortes de raisons, qui est la République démocratique du Congo. Eh bien, lorsque l'école ne fonctionne pas, ce qui est le cas dans ce pays, il n'y a aucun espoir de reconstruction du pays à terme, en fait. Donc, c'est par l'école que ça passe. Alors, elle a son école. Et à son école, elle rencontre Saint-Vincent de Paul à Villepreux, au cours d'une mission prêchée par Saint-Vincent de Paul. Ça, c'est décisif, parce que là, on se retrouve donc avec une femme de volonté, hein, quand même, il faut quand même être un peu tenace, qui rencontre un homme, et c'est Marguerite Nézot, ça, tous les historiens sont d'accord pour le dire, qui a fait faire à Saint-Vincent de Paul un pas décisif de deux manières. La première manière, c'est la suivante. Saint-Vincent de Paul était jusque-là en contact avec l'aristocratie du faubourg Saint-Germain. Donc, Louise de Marillac, enfin, vous voyez, ce monde-là. C'était le modèle de la charité exercée en haut. Si je le dis de manière un peu méchante, des braves dames du 7e et du 16e arrondissement, grandes bourgeoises, qui se mettent au service des pauvres. Mais c'est très bien, enfin, je veux dire, pas dire qu'elles le font mal, mais pour qui l'exercice est vertical. La rencontre de Marguerite Nézot fait comprendre à Vincent de Paul qu'il doit arrêter de maintenir la hiérarchie à l'intérieur de l'œuvre caritative. Vous voyez ce que je veux dire? Arrêter de maintenir la hiérarchie à l'intérieur de l'œuvre caritative. Et ça, c'est un vrai point de conversion personnelle pour tous. Hein. Parce que si je ne peux arrêter cela qu'en me mettant accroupi à côté du mendiant. Si je lui donne de haut, je maintiens la hiérarchie. Et Marguerite Nézot, femme du milieu populaire, a aidé, en fait, Saint-Vincent de Paul à le faire. Alors, ça, c'est fait partie des motifs de la cause de béatification, mais c'est la personne qui est la plus souvent citée par Saint-Vincent de Paul dans ses lettres et dans ses conférences. La plus souvent citée. Bien plus souvent que Louise de Marillac. Et à chaque fois pour en faire des éloges énormes. Pour dire que cette femme a vraiment compté pour lui au niveau spirituel. Donc ça, c'est le premier aspect, mais qui est vraiment important. Parce que du coup, on se retrouve avec une communauté de femmes qui peuvent venir de l'aristocratie ou pas, peu importe, et qui toutes se mettent au service des pauvres. Deuxième point important, fort de l'expérience de Saint-François de Sales, Saint-Vincent de Paul est plus malin. Lui, il dit « j'ai besoin d'une communauté religieuse ». Parce que vous pourriez me dire « mais enfin quand même, des laïcs, ça pourrait bien suffire ». Saint-Vincent de Paul dit non, pour deux raisons. La première raison, la moins importante, c'est le manque de temps. C'est qu'un laïc est toujours pris un moment ou l'autre par ses activités temporelles. On le voit très bien aujourd'hui dans le bénévolat laïque, hein, qui coince parce que les gens, un jour, sont rattrapés par leurs affaires temporelles. Alors que moi, je suis le bouche-trou, puisque de toute façon, je suis là pour ça. Vous voyez, enfin, je dis ça très simplement. Dans ma paroisse, quand il n'y a personne pour célébrer les funérailles, bon, ben, j'y vais, parce qu'il n'y aura personne, de toute façon. Et c'est pas, et moi, je n'ai pas le choix pour dire, je n'ai pas le droit de dire non. Alors que le laïc pourra toujours dire, ah, moi, j'ai ma famille, j'ai ceci, j'ai cela, et je serai obligé de l'entendre. C'est de cette manière-là. Deuxième raison, plus importante, qui est la raison spirituelle, qui est de dire, je ne suis pas simplement là pour m'occuper un jour un peu de charité, mais pour être consacré à une œuvre, avec, en reprenant l'intuition initiale des visitandines, c'est-à-dire la visite aux pauvres et aux malades, associée à une vie de prière forte. Je dis bien forte. On ne peut pas appartenir à une conférence Saint-Vincent de Paul sans avoir cette prière quotidienne. Sinon, ça veut dire qu'on ne vit pas l'esprit Saint-Vincentien. Alors du coup, il a ça. Donc, il a besoin d'une communauté religieuse. Dans le même temps, il est hors de question de recommencer l'erreur des visitandines et de se retrouver avec une communauté cloîtrée. Parce que ça, ça ne va pas marcher. Eh bien, Saint-Vincent de Paul invente les filles de la charité en usant d'une petite subtilité du droit. À savoir que les sœurs cloîtrées sont celles qui prononcent les vœux solennels. Eh bien, c'est très simple. Les filles de la charité ne prononceront pas les vœux solennels. Ah, mais comment on fait? Eh bien, ce qui se pratique encore aujourd'hui, elles ne prononcent que des vœux simples d'un an, mais qu'elles renouvellent tous les ans. Ce qui est encore le cas actuel des filles de la charité. Donc ça, c'est la première chose qu'il fait. La deuxième chose qu'il fait, c'est qu'il leur invente une règle pour que leur vie apostolique soit accordée à leur vie de prière. Contrairement à ce que pensait le cardinal de Marquemont qui opposait les deux, Saint Vincent de Paul lui dit, ça s'unit. Alors, ça, des textes bien connus, mais il dit notamment, lorsque vous êtes à l'oraison appelé pour aller rendre visite à un malade, n'imaginez pas que vous quittez le Christ, puisque vous quittez le Christ pour retrouver le Christ. Donc ça, c'est une spiritualité du malade qui est très forte. Mais alors, par contre, malheureusement, on ne lit pas jusqu'au bout la phrase. Parce que la phrase continue ensuite. Lorsque vous serez rentré de votre visite au malade, eh bien, reprenez l'oraison. Parce que la vie contemplative est importante. Mais Saint-Vincent Paul ne dira jamais que la visite remplace la vie contemplative. Ça, c'est un problème que nous, très contemporain où on oppose Marthe et Marie. Je n'ai jamais compris comment c'était possible. Parce qu'on ne peut être que les deux à la fois. Mais tout le monde. Sinon, ça ne marche pas, en fait. Enfin, ça, c'est un principe dans l'Église. À chaque fois que dans l'Église, on doit dire « ou », il faut répondre « et ». On est quasiment sûr d'être juste. Alors, du coup, on invente les filles de charité. Malgré Naso meurt avant l'invention, parce qu'elle elle obéit à l'appel de l'esprit et elle comprend que l'époque de maîtresse d'école, c'est fini, et elle devient infirmière, garde-malade. Et devenant garde-malade, quand on est aux épidémies de peste, dont je vous ai dit qu'elle durait jusque dans les années 1660, eh bien, elle meurt malade de la peste, d'une manière très simple, comme son contemporain Saint-Louis de Gonzague, c'est-à-dire en transportant un pestiféré. Enfin, là, c'était mieux, elle lui a donné son lit, pour, en disant eh ben, qu'il n'avait qu'à dormir dans son lit parce que le malade doit être mieux installé que la personne saine. Et donc, elle a dormi par terre. Et quand il est mort, elle a repris son lit, et puis elle n'a pas lavé les draps, et elle a eu la peste. Et elle est décédée très rapidement. C'est quand même un don de soi assez beau, ceci dit. Première société de vie apostolique fondée en 1638, les filles de la charité, et leur après, vous en avez des dizaines, des centaines qui ont été fondées au XVIIIe et au XIXe siècle. Alors, l'heure a beaucoup tourné, je m'arrête là pour ne pas vous épuiser. Je peux vous donner, éventuellement, je verrai à Hélène là, mon papier sur Pauline Jaricot. Mais je vous ai mis quelques textes. Bon, ça, c'est plus un exemple de laïcs engagés qui fondent des œuvres quand même importantes et en même temps qui se fait complètement avoir parce qu'elle a refusé de se faire aider. Donc, elle finit ruinée par des escrocs parce qu'elle a refusé, en fait, d'avoir un peu de prudence. Voilà. Mais bon. Alors, Conclusion rapide. Un, je n'ai pas dit la moitié de ce que je voulais dire, parce qu'il y a beaucoup de sujets. Enfin, j'espère quand même que je ne vous ai pas épuisé ni assassiné. Conclusion rapide, peut-être deux, trois points qui me paraissent importants, au-delà de ce que j'ai déjà dit. Premier point important, la contribution à la vie de l'Église, elle commence par la prière. Et je dis notamment la prière contemplative. Ça, c'est le premier point. Deuxième point important, ce qui me frappe dans tous les portraits de femmes que j'ai faits, c'est que ce sont des femmes qui sont en même temps des femmes d'action, qui obéissent à l'appel de l'Esprit-Saint. Donc, quand elles ont un motif spirituel, elles y vont. Et n'hésitant pas à utiliser toutes les ressources qui sont à leur disposition à un moment ou à un autre. Parfois, ça rentre en conflit avec la société, mais on va l'entendre à la messe dimanche prochain, l'Église, elle ne peut pas être en consonance avec le monde. Sinon, elle ruine sa mission d'Église. C'est un leurre hein, d'imaginer que l'Église soit en consonance avec le monde. Elle est toujours pas en contre-société, mais en dissonance. Et du coup, c'est pour ça que ça coince avec la culture, que ça coince avec les habitudes. Et vous avez vu que sur 2000 ans d'Église, il y a quand même eu des choses variées. Il y a eu des acquis je pense qu'ils sont aujourd'hui acquis, qui ont peut-être mis un peu de temps à être acquis, mais qui ont été acquis. Que ce soit la vie apostolique féminine, que ce soit l'enseignement des femmes, y compris dans les universités, que ce soit des choses comme ça. Alors, on va donner lieu de résistance, mais ce qui est important, c'est de voir comment la résistance, elle se fait avec l'Église, pas contre. Parce que si elle se fait contre, c'est rarement bon, en fait. Ça suppose quand même pas mal de courage. Vous voyez, mais c'est pas. J'ai du mal à le dire de manière un peu juste, mais je ne voudrais pas que vous sortiez de là en disant que les femmes ont toujours été opprimées par l'Église, parce que ce n'est pas vrai. Je ne voudrais pas non plus que vous sortiez de là en disant qu'il faut toujours respecter les cadres prévus, parce que ce n'est pas vrai non plus. Bon. Je ne suis pas normand, mais je dirais que voilà, c'est un peu mitigé tout ça. Voilà. Bon, j'espère au-delà de ça que ça vous a fait réfléchir, et je répète que l'histoire suppose une très forte empathie envers la période qu'on étudie, parce que sinon, on ne rencontre pas les gens. Et l'histoire, c'est la rencontre des gens du passé. C'est la même empathie qu'on doit développer avec les gens que nous côtoyons, nous, aujourd'hui. Sinon, on ne les rencontre pas non plus. Voilà. Voilà. Alors, il est tard. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose pour la fin ? Je ne sais plus à moi de parler.
Bon, juste peut-être, moi je voudrais te dire merci justement pour tes détours historiques, parce que je trouve que c'est très intéressant justement de replacer toutes ces femmes ou tous ces personnages qu'on a croisés justement dans une société, dans une culture et dont on est quand même loin aujourd'hui. Et je trouve ça c'est très intéressant. Et ça, je te remercie.
Merci. Merci. Bon, excusez, si vous voulez bien, on va s'arrêter là. Je vous envoie l'enregistrement, puis ce qui regarde Pauline Jaricot, vous en faites ce que vous voulez, et on se retrouve peut-être un autre jour ou pas. Voilà.
On se retrouvera, j'espère l'année prochaine.
À l'année prochaine, Philippe, on compte bien sur toi. Enfin, moi, oui.
Et si jamais les uns ou les autres, vous avez des idées de sujets aussi.
Je pense qu'il y a d'autres femmes.
Jamais, c'est toujours intéressant à avoir des remarques, des remarques de tous ordres. N'hésitez pas à nous dire, ça peut nous aider à améliorer les choses.
Mais aussi les remarques critiques, parce qu'elles sont, si elles sont constructives, elles sont importantes pour moi et pour vous. Voilà.
Merci beaucoup.
Merci en tout cas.
Allez, merci à tous.
Merci.
À bientôt, Philippe, j'espère.
Allez, à bientôt. Au revoir.
Au revoir.